êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com.
Bonjour à tous, voilà, vous écoutez votre radio, radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Vous savez que vous pouvez nous écouter sur l'internet également, dans le monde entier. Et je veux vous remercier juste au départ de mon émission d'aujourd'hui, tous nos amis qui étaient avec nous la nuit de samedi dernier, samedi 26. Je vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, vous étiez très très nombreux. Je suis désolé puisqu'une grande partie de nos amis qui voulaient intervenir n'avaient pas eu l'occasion d'intervenir. Mais comme vous voyez, on est là, la radio est là, la radio Ici Maintenant qui vous donne la parole depuis déjà un quart de siècle. Il est là pour vous donner la parole. Alors grâce à tous les efforts et tâches de Didier Deplège, déjà un quart de siècle que vous avez la parole. Cette radio vous donnera la parole, vous pouvez vous exprimer, bien sûr. Et il faut pas insulter les autres, il faut pas des propos racistes, bien sûr, mais vous avez la parole sans limite, comme vous avez pu constater pendant toutes ces années. Encore une fois, tous mes remerciements pour tous nos amis qui étaient avec nous samedi 26 et celles qui n'ont pas eu l'occasion d'intervenir aujourd'hui. Et pourquoi pas, profitez-en. Je suis là jusqu'à 16h et après aussi, comme vous savez, comme d'habitude, cette radio vous donne la parole. Alors au départ, juste au départ de notre émission, François, il va nous présenter notre flash d'info d'aujourd'hui. Quelques dépêches assez intéressantes et importantes. Alors, je vous invite d'écouter François. Bonjour François.
Bonjour David.
Comment vas-tu?
Oh, tout va bien.
Alors, quoi de neuf?
Tout d'abord, un séisme d'une magnitude de 8,7 sur l'échelle de Richter s'est produit au large de la côte ouest de l'Indonésie. Il a fait au moins 400 morts sur l'île indonésienne de Nias, selon le ministère indonésien de la Santé. Mais les autorités ont annoncé qu'un millier d'habitants, voire davantage, pourrait avoir péri. Ce séisme survient trois mois après la catastrophe du 26 décembre dernier, qui avait fait plus de 270 000 morts. L'île de Nias, un lieu prisé des surfeurs, avait été durement touchée par les violents séismes, car 174 000 personnes avaient péri et 106 000 disparus. Les États-Unis, le Japon et l'Australie ont proposé une aide militaire à Jakarta. Néanmoins, l'île est inaccessible et il est impossible de porter une aide quelconque pour le moment. Les trois journalistes roumains enlevés hier en Irak ont réussi à lancer des appels à l'aide à leurs familles et à leurs collègues avant de disparaître. Marie-Jeanne Ayon, de la télévision Prima, aurait exhorté les autorités roumaines à ne pas intervenir précipitamment avant un éventuel appel des ravisseurs. Elle était accompagnée de son caméraman et d'un journaliste du quotidien Romania Libera. La Roumanie a déployé environ 800 soldats aux côtés de l'armée américaine en Irak. Ces enlèvements surviennent alors que le président roumain effectue une tournée en Afghanistan et en Irak. Le procès de Michael Jackson, accusé d'abus sexuels, prend un nouveau virage. En effet, les précédentes allégations visant le chanteur vont pouvoir être évoquées devant les jurys du tribunal de Santa Maria. Deux de ces affaires passées s'étaient réglées à l'amiable pour plusieurs millions de dollars. Le procureur Tom Sneddon espère démontrer que la star suit ainsi un schéma régulier d'abus, mais il a reconnu que seul l'un des cinq jeunes en question allait témoigner. L'avocat de la défense Thomas Musereau avait demandé au juge Melville d'exclure du procès ses allégations passées, arguant qu'elles ne provenaient que de tierces parties, en vain. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans ont été requis aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire contre Jean-Pierre Roux Durafour. Le 29 octobre 2001, au matin, ce père de trois enfants cheminots armé d'une carabine avait sillonné les rues, tuant quatre passants au hasard et blessant sept autres, dont trois policiers et un gendarme. Il est jugé depuis le 16 mars pour assassinat, tentative d'assassinat, tentative de meurtre sur un militaire de la gendarmerie et sur un fonctionnaire de la police nationale. Enfin, le tribunal correctionnel de Paris juge à partir d'aujourd'hui 8 islamistes radicaux présumés, dont 4 sont soupçonnés d'avoir porté assistance aux assassins du commandant Massoud. Le 9 septembre 2001, deux faux journalistes tunisiens disposant de passeports belges volés et de visas falsifiés d'Aman Abedé El Sattar et Bouraoui El Aouer se faisaient exploser alors qu'ils démarraient leur entretien avec le commandant en Afghanistan. Les juges d'instruction antiterroristes français Jean-Louis Bruyère et Jean-François Ricard, qui ont ordonné le renvoi des 8 personnes devant le tribunal, n'enquêtaient pas directement sur la mort de Massoud, mais sur un réseau de fourniture de faux papiers dont ont bénéficié ces assassins. Par ces passeports trouvés sur ceux-ci, les enquêteurs ont remonté la filière qui les avait aidés. Ils ont estimé que l'attentat suicide perpétré contre le commandant Massoud avait pu être mis en œuvre grâce à l'utilisation par Daman et El Aouer des filiales d'acheminement de volontaires pour le djihad depuis l'Europe. Le procès doit durer jusqu'au 20 avril prochain. Voilà, David.
Merci, François.
Bye.
Ah, bye, à bientôt. Voilà, c'était notre flash d'info. Le plus important, alors, après, c'est le procès des islamistes en France. Et comme on avait même parlé samedi dernier, vous voyez que la question des islamistes intégristes et terroristes en Europe, ce n'est pas tellement facile. C'est-à-dire, depuis même, on peut dire, depuis le 11 septembre, une grande partie des milices islamistes, ils ne sont plus sur la scène. Et ils se sont cachés, bien sûr, et ils exercent clandestinement même leur existence en Europe, bien sûr. Et surtout leur attachement au mouvement intégriste terroriste. Même il y a déjà quelque temps encore, vous vous rappelez, la France a déclaré comme quoi on avait découvert un réseau des individus avec identité française qui étaient en Irak et même qui recrutaient ici pour envoyer les gens en Irak. Alors cette question islam politique, comme vous pouvez constater, c'est la question de jour depuis déjà plusieurs années, et ce n'est pas quelque chose que nous allons l'abandonner facilement sous la pression de quelques individus qui appartiennent à cette chambre de ténèbres, et chambre de terreur aussi, bien sûr. Pourquoi? Puisque quand vous ne parlez pas, c'est l'ennemi qui avance, c'est l'ennemi qui parle, c'est l'ennemi qui prend la place. Et quand on fait peur aux gens de parler de certains sujets qui peuvent toucher les intégristes, alors c'est à réfléchir. Alors, aujourd'hui, quel est le sujet qui vous intéresse si vous voulez intervenir? Juste au départ de l'émission, on va vous donner la parole, surtout que je sais vous étiez très très nombreux, que vous n'avez pas pu intervenir samedi dernier. Alors dès maintenant, l'antenne est à votre disposition. Vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 et on va vous écouter. Alors hier c'était fête de Pâques, bien sûr, on va souhaiter bonne fête de Pâques à tout le monde, Pessa qui va venir, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pessa, espérons que toujours on va fêter, au lieu de d'avoir des tristesses, des dépêches de tristesse, au lieu de des informations qui parlent de catastrophes et d'assassinats et tout ça, ça sera bien sûr bien que toujours on parle de fêtes et que toujours en fête, voilà. Fête de Pâques, vous savez, cette année, malheureusement, encore une fois, une partie du monde était en guerre et bien sûr, une grande partie des gens n'ont pas pu fêter. Alors, en France, vous savez qu'il y a un autre problème, c'est le référendum sur la Constitution européenne. Le 28 du mois de mai, on va voter. Alors, déjà, il y a certaines contestations et les sondages qui ont fait un après l'autre. Et parmi tous ces sondages-là, toujours on dit déjà que le non va emporter. Alors, si c'est le non qui va gagner, vous savez... D'abord, un échec pour la droite, c'est surtout Jacques Chirac et son gouvernement. Et de l'autre côté, un autre échec pour François Hollande, patron des socialistes, patron du Parti Socialiste, premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est-à-dire, cet enjeu de référendum, de constitution européenne, ça pouvait déchirer les socialistes d'un côté, et de l'autre côté, si ça il ne se déchire pas, alors ça sera un changement dans la stratégie présidentielle du Parti Socialiste, et que Laurent Fabius, sans aucun doute, sera le candidat le plus important de la part du Parti Socialiste actuellement. Comme vous savez, il y a un conflit entre Hollande et son équipe et ses amis et celle de Laurent Fabius. Alors l'autre jour, je disais à François Hollande que pour calmer un peu le camp de non, c'était bien de désigner dès maintenant le candidat présidentiel du Parti Socialiste. Alors, comme ça, sans aucun doute, Laurent Fabius pouvait changer de camp. Mais cette décision d'élargir le nom après le congrès qu'ils ont eu, les socialistes, sans aucun doute, cet enjeu va être décisif pour 2007 concernant les présidentielles. Alors, si on avance ainsi... sans aucun doute, c'est le nœud qui va emporter. Alors, beaucoup de laïcs, soi-disant, ils disent que dans la constitution européenne, dans cette constitution, certains éléments de la laïcité républicaine est absent. Et de l'autre côté, certaines craintes comme quoi l'économie française va affaiblir, comme il a affaibli après... Euro. C'est vrai qu'après Euro, nous pouvons constater qu'il y avait un grand échec économique en France. Alors, si ça sera le cas après Constitution européenne, alors encore une fois, ça sera un autre échec économique pour la France. Mais tout ça, on va savoir, on sera tout seul au 28, mais si vous avez des idées, des opinions, même concernant le référendum, procès des islamistes aujourd'hui et d'autres sujets, voilà que vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, au 08 92 23 95 20, on va recevoir Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour. Bonjour David. Bonjour les auditeurs.
Bonjour.
Moi, je voulais intervenir à propos du référendum sur la Constitution européenne.
Oui.
Je voulais intervenir parce que je trouve qu'il y a en ce moment une désinformation assez extraordinaire de la part des...
Tu peux baisser un peu ton poste de radio, s'il te plaît, Christophe.
Je baisse ma radio.
Merci, parce que comme ça, on peut mieux entendre tout ce que vous dites, voilà, Christophe. Voilà, ça va mieux. Voilà. Merci.
Non, j'étais en train de dire que j'étais assez frappé par la désinformation de la part des principaux défenseurs du oui pour la Constitution européenne, à savoir l'UMP et le Parti socialiste, François Hollande, parce que en fait, la clé de voûte de leur argumentation, c'est de dire voilà, nous sommes contre la directive Bolkestein, mais nous sommes pour la Constitution européenne. Et en particulier, Olivier Duhamel, qui a participé à la rédaction de cette Constitution, nous dit, ne vous inquiétez pas, si nous adoptons la Constitution européenne, nous allons pouvoir annuler la directive Bolkestein, qui en ce moment, il paraît qu'elle est en train d'être remise à plat, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, bref. Mais cet argument n'est pas tenable, parce que la Constitution européenne, dans son volet économique, est absolument équivalente à la directive Bolkestein. On va essayer de rappeler. La directive Bolkestein, qu'est-ce qu'elle dit en gros? Elle dit que, par exemple, un pays de l'Europe, en particulier un nouvel entrant, qui ne se serait pas, dont le droit du travail en particulier n'est pas aligné sur celui où il est le plus en pointe, par exemple sur les salaires, pourrait par exemple installer une entreprise en France et puis payer ses salariés à l'équivalent du SMIC, par exemple le SMIC polonais, si tant est qu'il y a un SMIC en Pologne. Et il y a un article dans cette constitution, l'article 138, le paragraphe F, qui est exactement l'équivalent de la directive Bolkestein. Je vous le lis, c'est pas évident à comprendre. Mmh. En appliquant la suppression progressive des restrictions aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement, c'est-à-dire le siège social, dans les organes de gestion ou de surveillance de celle-ci. C'est les organes de gestion ou de surveillance, c'est les succursales, en fait. Mmh. Donc ça veut dire que c'est la suppression des restrictions du siège social, hein, par exemple au niveau des salaires dans les succursales qui s'installeraient en France. Hein. Tout est dit, là. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Donc je trouve ça assez incroyable que... Alors, je ne sais pas, les responsables, est-ce qu'ils n'ont pas lu la Constitution ou est-ce qu'ils nous bernent, est-ce qu'ils nous trompent? Je crois que c'est plutôt ça. Je ne peux pas imaginer qu'ils n'aient pas lu la Constitution.
C'est possible qu'ils ne l'ont pas lu la totalité, Christophe. C'est possible, parce que le plus important, le plus simple, on peut de temps en temps, si vous rencontrez quelqu'un, un responsable politique, de poser la question et essayer de savoir si ils ont lu la totalité de cette Constitution. Bah, moi, j'ai fait quelques essais, je crois qu'ils ne l'ont pas étudié profondément.
Écoutez, peut-être que certains d'entre eux, y compris les plus éminents responsables, ne l'ont pas étudié. Mais un type comme Olivier Duhamel, lui, il a participé à la rédaction de la Constitution. Et il nous dit, ne vous en faites pas, quand on aura ratifié la Constitution européenne, voilà, on supprimera la directive Bolkestein. Or, c'est contradictoire. Lui, il la connaît puisqu'il a rédigé la Constitution. Ça ne veut pas nous dire qu'il ne le connaît pas. Et c'est l'argument principal qu'il utilise. Alors peut-être qu'il y a des responsables qui n'ont pas eu la Constitution en entier, mais c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils nous mènent, hein, quelque part. Enfin bon, je voulais préciser autre chose, c'est que, bien entendu, tous ceux qui votent non, il y a beaucoup de gens de gauche, d'ailleurs, le non à gauche remonte en ce moment. Ouais. Et puis bon, il y a aussi des gens comme Le Pen et De Villiers, mais voilà, je pense qu'on peut tout à fait défendre le non sans être un villériste ou un lepéniste. Et ça aussi, c'est un autre argument qu'utilisent assez souvent les socialistes ou la droite. Mais c'est comme si les socialistes et l'UMP, lorsqu'ils essayaient d'intervenir en Irak, bon, bah, ils étaient contre l'intervention en Irak, et Le Pen aussi était contre l'intervention en Irak. Et c'est pas pour ça qu'on dit que le Parti socialiste est proche du Front National. Ça tient pas la route non plus.
Mais à ton avis, de toute façon, tous ces partis-là, ils ne regardent pas avec des lunettes pareilles.
Ah
la
oui,
contestation, c'est, ça concerne,
oui,
par exemple, comme toi, est-ce que seulement c'est cette directive qui te gêne, ou il y en a d'autres choses aussi qui te gênent là-dedans?
Moi, ce qui me gêne aussi, c'est que il y a aussi la règle de l'unanimité. Une directive de la Commission européenne ne peut être rejetée qu'à l'unanimité. Mais ça, c'est pas normal non plus. Parce que ça fait que ça veut dire que la façon dont on pose la question change complètement la réponse. Par exemple, si je pose une question, qu'est-ce que je pose comme question, par exemple? Je vais dire n'importe quoi. Êtes-vous pour qu'on cesse de légaliser l'avortement? Alors, il suffit qu'il y a une personne qui dit non. Et dans ce cas-là, effectivement, l'avortement reste légal. Mais si on pose la question dans l'autre sens, êtes-vous pour que dans tous les pays, on légalise l'avortement? Alors là, il suffit qu'il y ait une personne qui dise non, et l'avortement devient illégal dans tous les pays. Donc cette règle de l'unanimité, ça veut dire que selon la façon dont on pose la question, en fait, on oriente complètement. Ça veut dire qu'il y a une seule personne, sur un seul pays sur les 25, qui dit non, et ça influence tout. C'est pas la démocratie, ça, c'est pas possible. Je comprends pas comment on peut tolérer. Enfin, je comprends pas comment il peut pas y avoir 100% de gens qui disent non, quoi. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et nos dirigeants, je sais pas, ils lisent pas la Constitution, ou alors moi je pense qu'il y a quand même une certaine duplicité dans tout ça. Je pense qu'il y a quand même une désinformation.
De toute façon, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait une étude assez détaillée concernant le non, pour savoir, droite et gauche, si tous les deux disent non, une partie, enfin, dit non, sur quel point, sur quel article, il appuie pour dire non.
Ah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec
C'est-à-dire, jamais, on n'a pas parlé de profond de pourquoi non, toi.
Oui, je suis d'accord. Je trouve que même dans les interventions, dans les journaux télévisés, à la radio et tout ça, c'est vrai que très souvent quand on entend même les partisans du non, il n'y a pas d'argument. Ils se basent pas sur le texte de la Constitution. Les gens ne il n'y a pas d'argumentation en profondeur.
Et de temps en temps, il y a des arguments contraires, c'est-à-dire contradictions. Une partie politique, il dit, c'est pour ça que moi je veux voter non. L'autre, il dit, c'est pour ça que je veux voter non. Et ces deux choses sont en contradiction de temps en temps.
Oui, c'est sûr que si on entend un type comme Devinier, par exemple, alors lui, ses arguments, c'est parce que, voilà, au fond, cette constitution fera qu'il n'y aura plus d'identité morale et religieuse. Des nations, lui c'est ça son argument, et moi personnellement je suis pas villériste, ça m'intéresse pas du tout. Moi c'est plutôt parce que effectivement je veux quand même qu'il y ait un droit du travail. Moi je voudrais bien que le droit européen je sais pas, par exemple, moi je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un même SMIC pour tout le monde, enfin je sais pas, des choses comme ça, quoi. Je pense aussi que on devrait arrêter, par exemple, j'ai lu récemment dans le Canard enchaîné que, tu sais, en ce moment, il y a un déficit en France de 50 milliards d'euros. Mais quand tu sais, par exemple, qu'il y a 25 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises, c'est comme prime pour l'emploi. Alors que les entreprises n'embauchent pas. On leur donne comme ça, sans contrepartie. Voilà, moi, je serais pour qu'en Europe, il y ait une législation là-dessus. Enfin, qu'on ne donne pas comme ça, gratuitement, de l'argent à des entreprises qui font des bénéfices, qui licencient, qui délocalisent. Alors on marche sur la tête. 25 milliards d'euros, mais voilà, avec 25 milliards d'euros, on aurait déjà 25 milliards d'euros de déficit en moins. Enfin, on rêve. Hein.
Ah ouais. Il y a la Turquie aussi, Christophe Enjob, surtout que la droite, quand il dit non, pour la plupart de fois, il ramène le débat vers la Turquie en disant que voilà, mais pourtant, une chose qu'on peut savoir, et nous le savons déjà, c'est que dans cette constitution, la Turquie ne figure pas encore.
Bien sûr, de toute façon.
C'est-à-dire, on fait peur aux gens, comme quoi, voilà, c'est la Turquie qui va entrer dans l'Union européenne après. Et la droite, il appuie plutôt sur ce sujet-là, et comme tu as dit, sur le nationalisme, qui ne colle pas avec les arguments laïques, rationnels, républicains proposés par les socialistes, par exemple, par le gauche.
Absolument, ouais. Absolument. C'est vrai que, de toute façon, la plupart des arguments pour le oui sont des arguments de peur. Peur, effectivement, basée sur la xénophobie avec la Turquie. Peur aussi que, voilà, la France soit trop isolée par rapport à l'Europe, etc. C'est toujours des arguments de peur. Et c'est vrai que bon, pour la Turquie, c'est vrai qu'on a vu récemment, pour la journée de la femme, qu'il y a eu des répressions contre les femmes qui manifestaient. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui vont pas en Turquie, même beaucoup de choses qui vont pas en Turquie. Mais bon, c'est vrai que dans la Constitution européenne, il n'est pas non plus question de faire entrer la Turquie. Et puis bon, la Turquie, on peut voir, peut-être qu'après une période d'épreuve de quelques années, peut-être une dizaine d'années, on va voir s'il y a un progrès. Et à ce moment-là, prendre une décision. Mais il n'est pas question de faire entrer la Turquie tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a un lien qui est fait entre cette ratification de la Constitution et l'entrée de la Turquie, qui est un lien fallacieux, de toute façon. Enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est que effectivement, il y a une majorité pour le non en ce moment, mais c'est un non qui est assez fragile parce que c'est un non qui est instinctif. Beaucoup de gens votent non parce que instinctivement, ils sentent que ils sont plus ou moins trahis par les politiques. Et je sais pas, je trouve que les partisans du non en particulier devraient vraiment nous donner des arguments qui soient plus étayés sur vraiment le texte. Bon, maintenant, il y a encore 2 mois de campagne, mais je pense que maintenant, il faudrait vraiment qu'ils s'y mettent. Et en attendant, les auditeurs, je les encourage vraiment à lire, encore une fois, l'article 138, le paragraphe S. Et ils verront que c'est Bolkestein. C'est exactement la même chose.
C'est ça qui te gêne seulement dans la Constitution européenne ?
C'est ce qui me choque le plus. Parce que l'argumentation est basée beaucoup là-dessus. Le Bolkestein, on est contre, mais on est pour la Constitution européenne. Mais il y a d'autres choses. Ce qui est choquant aussi, c'est que, c'est ce que je te disais, cette règle de l'unanimité. Et puis il y a aussi, je ne sais plus dans quel article... Il y a des choses comme, par exemple, tout ce qui a trait à l'exception culturelle, hein, ça aussi, ce sera statué seulement sur la règle de l'unanimité. Alors, c'est des choses qui sont importantes.
Ah oui, surtout quand on parle d'organisation religieuse, ça aussi, ce n'est pas bien précisé, c'est quoi, hein?
Ouais. Ça, je sais pas trop. Il faut que je relise tout. Tu sais, moi, je suis pas un grand juriste et voilà, moi, j'ai, en octobre, il y a eu une édition de la Constitution européenne qui est sortie et qui était éditée par le journal L'Humanité et avec beaucoup de commentaires. Je me suis rué dessus. Voilà, ça a été édité en octobre. Après, je crois que c'est plus édité maintenant. Et bon, maintenant, il y a soit des éditions de la Constitution où il n'y a pas vraiment de commentaires. Et c'est vrai que c'est pas facile à comprendre comme ça le texte. C'est vraiment pas facile. Mais je trouve que tous ceux qui font la campagne ne font pas d'efforts pour que ce soit plus facile pour nous à comprendre.
De toute façon, pour le pas de cette constitution, ce sont des traités qui s'étaient déjà votés, toi, comme Schengen et plusieurs autres traités qui, depuis les années 50, ça a été voté. Il y en a une petite partie qui a été rajoutée. Et pour le pas de négociations et de discussions, c'est sur les traités, sur les articles rajoutés. Parce que sinon, pour le pas, c'est déjà voté, hein, c'est déjà voté, exécuté.
Oui, non, mais bien sûr. Et puis moi, tu sais, par exemple, moi, je me rappelle le référendum pour Maastricht. Moi, j'avais voté oui à l'époque, parce que moi, je pense que c'est bien d'avoir une monnaie unique. Alors après, quelles conditions, bon, là, il y aurait beaucoup à redire. Mais enfin, moi, tu sais, je pense que c'est quand même une chose dont on parle pas beaucoup. On parle souvent de la crise qui date du choc pétrolier et tout ça, mais il y a quand même un autre événement important qui s'est passé. C'était en 71. Quand on a supprimé les accords de Bretton Woods, qui permettaient qu'il y ait une parité fixe entre les monnaies. Et moi, je pense que ça joue un rôle non négligeable aussi dans la crise. Et je pense que la stabilité monétaire, c'est important parce que finalement, la fluctuation des monnaies, ça fausse beaucoup le commerce. Donc moi, j'étais pas contre Maastricht. Et puis je suis pas non plus du tout anti-européen, mais simplement. Je trouve que cette constitution, c'est très important, c'est très inquiétant, d'autant que du côté du Parti socialiste, ça succède quand même à certaines autres alertes. Moi, je me rappelle en particulier quand Jospin était Premier ministre. Je ne sais pas si tu te rappelles les fameux accords multilatéraux d'investissement. C'était un mouvement du patronat international qui voulait qu'en gros il n'y ait plus du tout de restrictions faites à la liberté d'entreprendre. Donc encore, tout ce qui était législation sociale, ça foutait le camp. Et Lionel Jospin, je me rappelle à l'époque, avait dit qu'il n'était pas hostile à ces accords. Et Jack Lang, dans un article dans Le Monde, lui au contraire, avait dit qu'il était contre. Il avait dit, le titre de cet article, c'était « Les amis, voilà l'ennemi ». Et voilà, depuis, Jack Lang, eh ben, il a changé d'avis. Maintenant, il défend le « oui » à la Constitution. Et c'est pareil, Jospin aussi en 2002, la campagne présidentielle, bah, il avait dit, voilà, nous ne faisons pas une campagne socialiste. Mmh. Donc, quelque part, on se dit, voilà, tous ces gens, au contraire, en fait, ils ne croient plus au socialisme. C'est ça qui m'inquiète.
Ah oui, c'est... surtout quand il prend le pouvoir.
Ben oui, oui.
Quand il prend le pouvoir...
Ça... Je trouve ça très inquiétant. Très inquiétant.
C'est-à-dire, tu penses, cette parole de la part de Jospin n'était pas bien, et il a perdu des voix à l'époque.
Ah bah oui, il s'est complètement planté.
Ouais, parce que quand tu abandonnes tes camarades pour chercher les nouveaux camarades, c'est un peu compliqué et difficile.
C'est compliqué, et puis c'est...
Il faut garder ce que tu as déjà.
Ça marche pas, d'abord ça marche pas, et puis ensuite ça veut dire qu'on peut plus faire confiance. Il y a quand même une autre chose aussi qui est assez frappante dans cette histoire, c'est que cette constitution européenne, il y a quand même un certain baron Sellière qui, lui, il trouve qu'elle est très bien. Mmh. Ça devrait nous faire réfléchir aussi. Mmh. Enfin voilà, je voulais te faire part de mes impressions.
Merci Christophe.
Ils veulent réagir. Et merci beaucoup pour tes émissions, je trouve ça très intéressant en général.
Merci Christophe.
Bonne journée.
Et toi aussi. Voilà, c'était Christophe sur 95.2 FM, et vous avez la parole. Le sujet qui vous intéresse, ce n'est pas, vous n'êtes pas obligé de parler de référendum, d'autres choses aussi, si vous voulez, le procès des 8 islamistes aujourd'hui, ou d'autres choses, je ne sais pas quoi. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20, et comme vous savez, de toute façon, il y a une autre chose qui est assez importante, c'est vos messages d'encouragement. C'est vrai, comme Nadia il m'avait écrit, vous savez, la radio, il est comme une école. C'est-à-dire, même moi, j'apprends de vous, et vous aussi, vous apprenez de votre radio. Alors, cet échange de pensées, de savoir et de connaissances, ça nous aide d'abandonner certaines pensées qui peuvent être dangereuses pour la laïcité, pour la République. Surtout aujourd'hui, dans cette époque-là que nous vivons, et avec l'Union européenne surtout, vous savez, par exemple, actuellement, comme on vient de dire, la plupart des individus de droite, quand ils vont faire peur de l'Union européenne et de constitution européenne, tout de suite, ils amènent la Turquie, ils le mettent sur la table en disant que voilà, si la Turquie entre en Europe, ça va être difficile et compliqué. Pourquoi? Puisque la Turquie est d'origine musulmane. Alors, cet islam qui, c'est vrai, peut-être jamais on n'a pas eu l'occasion ni le courage des individus de le critiquer. Aujourd'hui, ici et maintenant, depuis déjà certains temps, surtout cette radio, comme tous les autres médias et tous les autres intellectuels engagés, où une part assez importante de mettre sur la table de chirurgie et faire une chirurgie historique de cette religion pour pouvoir sortir certains individus qui sont très attachés à cette pensée, même aveuglément, de temps en temps sont attachés. L'exemple, c'est le procès de 8 islamistes aujourd'hui. Comme ces 8 individus, vous savez qu'il y a toujours des milliers, même qu'ils soient dans les pays musulmans ou dans les pays que l'islam vit. Alors l'islam, d'abord pour pouvoir l'envoyer dans le mosquée, et il faut dépolitiser l'islam. C'est-à-dire, il faut le dépolitiser. Par contre, pour la plupart des fois, comme vous pouvez constater, il y a cette politisation de l'islam qui cause certains problèmes, qui soient... Alors, c'est vrai, de temps en temps, quand on parle d'Irak, et d'Israël, d'Afghanistan et tout ça, ils disent, ah oui, oui, c'est la résistance. Mais imaginez-vous que dans la plupart d'autres pays, il n'y avait pas de résistance. Même aujourd'hui, cette résistance, soi-disant, dans certains pays musulmans, il fait face aux patriotes. C'est-à-dire, ce sont des Irakiens, des Afghans, des Soudanais, mais avec des tendances religieuses différentes qui se font massacrer. Alors, c'est vrai, certains, ils ont raison d'avoir peur si c'est un pays musulman, même cet pays considéré laïque, soi-disant, va être entré dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'on dit d'ici 10 ans, 15 ans, on va commencer à négocier. Mais vous savez qu'économiquement, aujourd'hui, la Turquie, elle est en Europe. Et surtout, dans l'économie, vous savez, l'idéologie ne compte pas. L'idéologie de l'économie, c'est gagner le plus. C'est le dollar. C'est le dollar. Il ne connaît pas ni les noms, ni les pensées, ni les religions. C'est-à-dire, cette crainte qui existe en France comme le seul pays laïque en Europe, bien sûr, peut-être cette crainte n'existe pas dans les autres pays occidentaux même. Pourquoi? Puisque imaginez-vous quand vous voyez le maire de Londres, il prend certains propos. Pourquoi il fait ça? Puisqu'il sait les gens qui vont voter à Londres en faveur de cet individu, une grande partie, ce sont des capitalistes musulmans. Alors avec ça, avec cette parole-là, il sait qu'il va pas perdre de voix, mais par contre il va gagner de voix, puisque ses voix sont assez importantes. Londres, surtout Grande-Bretagne, vous savez, depuis déjà environ 200 ans, était entré dans le pays musulman, et les musulmans sont entrés en Grande-Bretagne. C'est pour ça, actuellement, l'économie britannique est très liée avec les pays musulmans. Alors c'est pour ça, l'islam qui peut exister en Grande-Bretagne est tout à fait différent avec l'islam qui peut être sur la scène politique française ou même américaine. Et autre chose assez importante, c'est que en Grande-Bretagne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez monarchie. Avec le monarchie, le pouvoir politique presque il est stable. Mais dans les pays démocratiques, surtout républicains, tous les 4 ans, 5 ans, 7 ans, on est obligé de changer de président. C'est-à-dire, vous changez la tête de l'État. Avec cet changement de tête de l'État, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'individus, beaucoup de capitalistes qui vont jouer pour changer, pour intervenir dans les décisions du pays. Ce sont des choses que peut-être là, ici, on peut pas le comprendre, n'est-ce pas? Mais en Grande-Bretagne, Grande-Bretagne n'est pas un pays laïque comme la France. Non plus Allemagne, ni l'Espagne, ni Portugal et d'autres pays européens. Alors c'est pour ça que la France peut jouer un rôle assez important, mais pourtant, vous savez, ici aussi, cette pensée religion, ça peut être tellement fort. Et bien sûr, dangereux, pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui en face de nous les assassins de commandant Massoud qui sont en train de juger. Il y en a 4 personnes parmi les 8 qui avaient un rôle assez important, un rôle logistique pour cet assassinat. Ces individus-là, ils étaient ici, à partir d'ici, et ils ont obtenu des passeports et des financements de plusieurs milliers de francs, et ils étaient allés là-bas pour exécuter leur juge. Alors, si on commençait un peu plus tôt de parler, d'expliquer d'islam politique, de caractère de commandant Massoud, puisque quand on tue commandant Massoud, pour l'individu qui est prêt à donner fin à sa vie et prendre la vie de Massoud, il connaît pas Massoud. Pour lui, Massoud, c'est un individu athée, je ne sais pas quoi, non-musulman, je ne sais pas quoi, etc., tadjik, hein, et plusieurs d'autres choses. Et, facilement, il donne sa vie et il prend la vie de Massoud. Mais si on avait plus d'informations sur Massoud, plus d'informations on aurait donné sur l'islam politique, sur l'origine de cette pensée, sur l'origine de terreur dans cette pensée, dans cette idéologie, et l'individu de banlieue qui soit, comme j'ai dit samedi dernier, toujours on est en train d'accuser la jeunesse de banlieue. Par contre, la jeunesse de banlieue, aujourd'hui, il est plus laïque que jamais. Il est laïque, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens de banlieue, aujourd'hui, ils comprennent bien ce que peut-être ils ont hérité de leurs parents. Aujourd'hui, s'ils vont élargir ça, il faut mieux réfléchir. C'est pour ça, regardez, dans la plupart des mosquées que vous voyez en France, vous ne voyez pas beaucoup de gens d'aller là-bas et écouter même les imams qui peuvent être modérés ou non. C'est ça c'est un exemple. J'avais beaucoup de témoignages et j'ai des témoignages que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse musulmane d'aujourd'hui, il est en train de entrer dans le château de la laïcité, de la être républicain. Et c'est pour ça que de l'autre côté aussi, on devra ouvrir les portes pour donner plus d'occasions à ces gens-là pour qu'ils ne restent pas prisonniers dans leur camp. Alors, au 08 92 23 95 20, mes chers amis, vous avez la parole. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio ici maintenant. Marie-Paul m'a posé la question pourquoi, pour la part des fois, nous constatons que c'est des malfaiteurs, des gens qui avaient des procès, ils deviennent religieux. Par exemple, dans certains pays Amérique latine, ils deviennent membres d'une église et dans le pays musulman, ou même en Europe, les musulmans, ils deviennent musulmans engagés. Pourquoi ça? Alors, vous savez, je crois que dans certaines religions, même dans l'islam, vous vendez votre passé à Allah. Alors, Allah, il va acheter votre passé, c'est-à-dire vous êtes un criminel, vous avez effectué beaucoup de crimes, et alors tout de suite, vous allez vendre tous vos crimes à Allah. Allah, il va les acheter, et à la place... il va vous demander de devenir musulman, même si vous êtes musulman, mais musulman pratiquant, et faire la guerre en faveur de l'islam, Allah et son prophète. Et après, tout ce que vous avez fait précédemment, ça va être pardonné. Alors ça, c'est dans le surat Saf, et le verset 11 et 12, et il parle de ça. C'est vrai que c'est pour ça de temps en temps certains individus qui ont tout fait dans leur vie, peut-être beaucoup de vols, de massacres, etc., etc. Et à la fin, alors ils disent voilà, ok, on va être pardonné. Alors ils deviennent des bons musulmans. Pourquoi? Puisque cette promesse a été donnée aussi dans le Coran. C'est-à-dire aujourd'hui aussi, si nous parlons d'un regard critique sur l'islam, ça aussi c'est à réfléchir, puisque l'individu qui avait déjà risqué sa vie pour l'argent, et pour les ambiances, il était ambitieux, n'est-ce pas? Alors il avait risqué sa vie, il avait des problèmes. Alors de nouveau pour être pardonné, Allah et le Dieu de l'islam, de Coran, il le promet que si il devient musulman et que s'il prend ses engagements en faveur du prophète de l'islam et son Dieu Allah, tout ce qu'il a déjà fait va être pardonné. C'est pour ça, de temps en temps, pour le parler de foi, dans certains procès aussi des islamistes, vous avez pu constater certains individus qui sont membres des mouvements terroristes, ce sont des gens qu'ils avaient un passé un peu triste, et des procès un peu tristes. Alors ça se passe beaucoup même dans les prisons américaines, aux États-Unis, même aujourd'hui, vous avez entendu. Par exemple, même Michael Jackson, puisqu'il a ce problème-là aujourd'hui, le procès de Michael Jackson, vous allez voir, d'ici quelques temps, ce procès aussi va devenir religieux. Et surtout que vous savez, Michael Jackson est devenu musulman. Il a cité déjà aujourd'hui même le nom de Muhammad Ali, Clay, et d'autres noms. Et pourquoi pas, demain, carrément, il va dire, puisqu'il était musulman, puisqu'il est devenu musulman, voilà, on l'a fait ça. Mais par contre, Michael Jackson, il est devenu musulman après ses procès. C'est-à-dire, une fois que les procès contre lui a été commencé, même après quelques années, il a dit qu'il est devenu musulman. C'est-à-dire, de temps en temps, si c'est politique, par exemple, Michael Jackson aujourd'hui, il sait très très bien que s'il dit qu'il est musulman, au moins tous les musulmans américains, noirs surtout, ils vont être à ses côtés. C'est pour ça que depuis ce matin, sans doute vous avez entendu, il a commencé à parler de raciste. et des procès qu'on avait fait, soi-disant des procès racistes contre Mohamed Ali Kelley, que je ne sais pas s'il y avait des procès contre Kelley ou non, mais aujourd'hui il a dit Michael Jackson, et il a cité d'autres noms aussi. Alors cette pardonne facilement, c'est-à-dire quand on peut pardonner facilement les individus qui ont commis des crimes en acceptant n'importe quelle religion, c'est ça aussi qui peut être dangereux. Alors, si quelqu'un a commis un délit, il devra être jugé et subir ce que la loi l'impose. Mais de l'autre côté, si on dit qu'Allah, il va le pardonner, et s'il devient ministre d'Allah, tout ce qu'il a fait va être pardonné, alors ça, c'est grave. Alors, pour répondre à Marie-Paul, c'est que c'est vrai ce que vous avez entendu aussi, malheureusement, ça existe dans le Coran, mais comme toujours on a dit, même samedi dernier, on a dit avec... mon invité Bernard Racan, les poulots par nos intervenants aussi sont précisés. De toute façon, le Coran, il y a beaucoup de choses dedans. Dès le départ, il pouvait pas être parole de Dieu. Et même aujourd'hui, si que, certains individus, ils prétendent être parole de Dieu, ils peuvent pas être loi du pays, même loi de famille. Aucune famille ne peut pas tenir compte assez. Heureusement, aujourd'hui, il y a, les sénateurs français sont en train de voter autre chose. C'est l'âge de mariage des filles en France de 15 ans va arriver à 18 ans pour empêcher les mariages forcés. Tout ça, ce sont des avantages en faveur des citoyens. Et de l'autre côté, aussi, sans aucun doute, il y a des résistances, c'est-à-dire certains individus, surtout les clergés pour ne pas perdre leur fonds de commerce. Alors le fonds de commerce, c'est quoi le fonds de commerce de ces gens-là? C'est d'avoir l'exclusivité d'interpréter le Coran par exemple, le Hadith et beaucoup d'autres choses. Et une fois que ça devient une question pour tout le monde, et tout le monde peut en discuter, alors ça va être compliqué pour eux. Mais heureusement, aujourd'hui, grâce à tout le progrès de communication, n'importe quoi que vous voulez, vous pouvez l'avoir tout de suite et rapidement. Alors, 08 92 23 95 20, on va recevoir Pascal, Patrick.
Oui.
Patrick, bonjour.
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 Vous m'entendez?
Oui.
Oui, monsieur Abbassi.
Bonjour.
Oui, je vais vous dire que franchement, vous dites n'importe quoi et Allah, il va vous brûler en enfer éternellement pour ce que vous venez de dire. Brûler en enfer.
C'est où l'enfer?
Brûler en enfer. Allah, il vous entend et croyez-moi, vous allez regretter ce que vous avez dit. Ennemis de l'islam, ils brûleront dans le feu de l'enfer éternellement. Allah, il le dit dans le Coran.
C'est où
et
l'enfer?
Moi, je vous dis un truc. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc.
Dis.
Je te jure, toi, si jamais je t'attrape, hein,
ouais.
Pas, je te tue, je t'égorge tout de suite. Espèce de bâtard, enculé de ta race, fils de pute. Tu vas brûler en enfer, fils de pute de ta mère.
C'est où l'enfer? Attends. Reste un peu poli. Tu peux m'envoyer à l'enfer, mais m'engorger aussi, mais tu peux rester poli aussi. Hein. C'est l'islam qui...
Tu vas brûler, fils de pute. Tu vas brûler dans l'enfer. Enfoiré, jamais je t'attrape, tu vas voir, je vais te tuer. Je fais une enquête, t'inquiète pas, je vais t'attraper, je vais te buter ta race, fils de pute. Allahu Akbar.
Avec quoi tu veux me goûter? Avec quoi? Tu vas me gorger là, comme le mouton? Mohamed. Alors, il était courageux quand même, Mohamed, de venir sous l'antenne. Et vous voyez, le jour qu'on est en train d'être témoin de procès de 8 terroristes, vous voyez, directement, il vient sous l'antenne, il sort ce qu'il a dans son cœur. C'est quoi? C'est de faire des actes terroristes. Vous voyez, quand on dit que des terroristes existent parmi nous, ce n'est pas n'importe quoi qu'on dit. Des terroristes, c'est très très dangereux. Des individus terroristes, malfaiteurs, existent parmi nous. Et en plus, ils ont le courage de prendre l'appareil et de composer le numéro et de défendre ainsi leur Allah. Leur Allah qui ne le connaît pas. Parce que en même temps, tu peux pas être tellement insultant, violent, sans savoir que cette radio, il y a des filles, des femmes, aussi qui sont en train de l'écouter. Au moins, si tu avais 0,5% de foi, alors tu pensais aux gens qui est en train de nous écouter. Tu pouvais lancer ton message, mais avec une politesse. Alors, on va prendre Halim, c'est ça, Halim,
oui,
bonjour.
Bonjour
Halim.
Bonjour, je vous appelle parce que c'était au sujet de la personne que vous appelez avant. Si vous incitez des personnes à haïr les musulmans, vous aurez des coups de téléphone comme cela.
Je vous écoute, Halim.
Ce serait bien de, comment dire, que toutes les religions s'aiment, parce que là, vous semez une terreur, c'est que les musulmans sont, comment dire, c'est le diable. Vous voyez ce que je veux dire?
Qui a dit que les musulmans sont des diables?
Non, mais vous insinuez des choses en disant que ce n'est pas la parole de Dieu.
C'est les paroles de votre copain de tout à l'heure, ce n'est pas la parole de Dieu?
Non, sur le Coran, tout à l'heure, vous avez dit que le Coran n'était pas la parole de Dieu.
Alors, il y a plusieurs milliards de personnes qui croient que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Il faut tuer tous ces gens-là?
Oui, mais moi, je crois en la Torah, je crois à la Bible au Coran, et franchement, je ne pourrais pas,
Mais non, je te pose la question, Halim.
Oui.
Alors, il y a plusieurs milliards d'individus qui ne croient pas que le Coran est parole de Dieu. Parce que s'ils croyaient que le Coran était parole de Dieu, ils deviendraient musulmans. Tu permets?
Oui.
Deuxièmement, même il y a plusieurs millions de musulmans, qui ne croient pas que le Coran est parole de Dieu. Alors, il faut tuer tous ces gens-là?
Non.
Alors?
J'ai jamais dit ça.
Alors, c'est toi qui viens de dire que c'est dangereux, ça?
Non, j'ai dit que c'est dangereux d'inciter les personnes à se haïr entre elles.
Oh, ce n'est pas d'haïr, c'est d'éclairer les gens.
Oui, mais...
C'est d'éclairer les gens.
Oui.
Et tu es en train d'écouter aujourd'hui, il y a le procès de 8 islamistes qui ont tué commandant Massoud.
Oui, mais il faut toujours... pas dire que le colonel Massoud aussi a tué des gens. Lui aussi, il était pareil que les autres. Hein. Je suis désolé, Massoud aussi était un terroriste. C'était un terroriste modéré, mais c'était aussi un terroriste.
Massoud aussi était un terroriste?
Ah oui, Massoud aussi. Il a tué des gens aussi, faut pas oublier.
Ah, c'est-à-dire que deux Tunisiens qui ont tué le commandant Massoud, ils ont des partisans ici, toujours en France. Lui qui pendant des années, il a sacrifié sa vie pour sauver son pays et son peuple, était terroriste. Et ces deux individus qu'ils ont allé le tuer, ils n'étaient pas des terroristes?
Ben si, c'était terroriste.
Alors mais comment Massoud ça se fait? Le terroriste, il a tué le terroriste?
Mais Massoud aussi a tué.
Alors, le terroriste, d'abord, tu dois savoir c'est quoi terroriste. Lui, il était un représentant de son peuple, Massoud. Il était ancien ministre, il était représentant de son peuple, et il était chez lui. Mais les gens qui sont allés de Tunisie, de la France, bien sûr, mais avec, c'était d'origine tunisienne, de la Tunisie, ils étaient allés là-bas chez lui, en Afghanistan, parce qu'en Afghanistan, il était chez lui. Et on l'a tué. On l'a tué, ces gens-là ne sont pas terroristes. Lui qui était chez lui, qui est devenu victime, il n'est pas terroriste.
Si, il est terroriste. J'ai jamais dit ça.
Ouais.
Mais Massoud aussi a tué des gens. Faut pas oublier.
Okay.
N'oublions pas.
Il y avait les gens comme ces individus-là, Taliban et les autres, qui sont entrés chez lui pour tuer son peuple. Il a défendu son peuple. C'est différent avec ce que tu vas aller chez lui. Lui, il a combattu qui? Il a combattu les Russes et les Talibans. Les Talibans qui étaient les gens comme les deux assassins qui venaient de tous les pays musulmans, y compris Arabie Saoudite, Yémen, Maroc et Tunisie. C'était des gens qui étaient entrés chez lui, qui tuaient son peuple au nom de Talibans et ils combattaient le Taliban. Et il était chez lui.
Ouais.
Ah, réfléchis un peu, papa. Réfléchis, Halim. Réfléchis un peu. Et une fois que tu as bien réfléchi, de nouveau, tu peux venir intervenir, mon fils. Mais imagine-toi que lui, il était chez lui. Il défendait son peuple. Il était un élu de peuple. Il était un ancien ministre. Et les autres, les étrangers, ils sont allés chez lui. Ils ont tué son peuple. Et ils ont tué le commandant Massoud également. Ça, ce n'est pas la même chose. Mais encore, bravo, ton courage. Aujourd'hui, quand tu dis Ahmad Shah était Massoud, c'est-à-dire tu es en train de signer l'assassinat de commandant Massoud.
Non,
c'est-à-dire,
tu devrais aller... Que Massoud aussi est un assassin, faut pas oublier.
Là, tu es encore en train de répéter.
Non, mais c'est vrai. On peut tuer ce tien alors comme ça. Tu viens chez moi, je te tue.
Il était allé avec des armes chez eux, il tuait les gens, il gorgeait les gens. Tu n'as pas vu le moment que les talibans étaient en pouvoir, comment ils gorgeaient le peuple d'Afghan? Dans les stades, même, on a montré ici à la télé, dans toutes les chaînes. ces individus qui n'étaient pas afghans, ils étaient là en Afghanistan en train de gorger le peuple afghan.
Mais c'était le peuple afghan, hein, je suis désolé,
des Pakistanais, des gens qui venaient de pays musulmans, des Tunisiens, des Marocains, des Ben Laden, son chef. Ben Laden, son chef, était saoudien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Réfléchis un peu, Halim. Halim, un peu réfléchir, s'il te plaît.
Voilà. Je n'ai rien contre vous.
Ahmad Shah, commandant Massoud, c'était un homme de paix, un homme de la liberté, un homme de conscience. C'était un combattant pour la liberté et pour la paix dans son pays.
Oui, pour son pays, mais c'était aussi quand même... Il n'a pas fait des choses très belles dans sa vie. Il a commis des injustices aussi.
Ah non, non. Quand il est en train de défendre son patrie, il est chez lui. Et tu sais qu'il pouvait venir à Paris. Il pouvait.
Mais il est venu à Paris.
Il est venu, personne n'a pas pris en compte. Il pouvait venir ici à Paris, se mettre à l'aise à Paris, sans rien faire, envoyer de temps en temps des communiqués pour son peuple et rester ici tranquille. Mais il est venu ici quelques jours, après tout de suite il est retourné chez lui, après quelques mois il était assassiné. Et plusieurs fois on l'avait proposé les dirigeants des pays européens de venir ici, de se mettre en bris. Mais voilà, bien sûr, mais jamais il n'a pas fait ça. Et ça il faut aller connaître commandant Massoud, je te conseille d'aller lire au moins un ou deux livres sur lui s'il te plaît.
Ok, ok, il n'y a pas de problème.
Voilà Ali.
Bah, je vous remercie Ali.
Merci.
Bonne journée à vous, au revoir.
À toi aussi, au revoir. Princesse Aïché, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Abbassi.
Bonjour.
Oui, je vous appelle, mais enfin moi je ne vais pas rester longtemps parce que je vous ai entendu parler d'Afghanistan et tout ça. Bon, chaque pays il a ses problèmes, c'est sûr, mais bon, les Américains ils n'ont pas à mettre leur nez là-dedans parce que les Américains ils ont massacré plus des milliers et des milliers que ce qu'il y avait, enfin il y avait déjà des problèmes, je comprends bien. Bon, moi je reviens en fait... au monsieur qui a parlé avant Halim. Bon, j'ai trouvé bon, il était énervé et tout ça. Parce que s'il s'énerve, bon, moi je dis à tous mes frères et mes sœurs musulmanes qu'il faut pas s'énerver parce que monsieur Abbassi, c'est un provocateur, il provoque toujours. Il est tout le temps en train de dire le Coran c'est pas la vérité, la plupart de ce qui a été écrit c'est pas Allah qui l'a écrit, c'est des gens et ceci cela. Donc moi je dis aux musulmans quand ils interviennent à la radio, il faut pas qu'ils s'énervent, il faut pas qu'ils commencent à dire des gros mots et tout ça, ça ne sert à rien, parce qu'un bon musulman doit rester calme, doit rester serein. Donc s'ils ont quelque chose à dire, ils le disent calmement. Sinon, il vaut mieux qu'ils interviennent pas, parce que si c'est pour s'énerver, tout ça, ça sert à rien. Donc Allah, il a dit dans plusieurs versets que l'islam, il va être victorieux. Donc on va voir la victoire un jour ou l'autre, même si les kafirins ne seront pas contents, même si ça plaît pas aux gens qui sont pas musulmans. Donc un jour ou l'autre, on va voir la victoire, Inch'Allah. Mais je dis à tous les musulmans et musulmanes qui s'énervent pas, qui insultent pas, ça sert à rien. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vous, monsieur Abbassi, vous provoquez beaucoup. Et bon, moi, vous pouvez pas me provoquer parce que je suis serein. J'ai Allah, j'ai le fil avec Allah. Donc, je crois à tout ce qui est dans le Coran parce que c'est la vérité, c'est les paroles d'Allah. Et Allah, c'est pour toute l'humanité, c'est pas seulement pour les musulmans. Parce que comme vous dites, c'est le dieu des musulmans, le dieu de l'islam. Allah, c'est le dieu de tout, de la Torah, de l'évangile et de l'islam. L'islam, elle englobe en fait toutes les religions, parce que nous, autant croyons, des bons musulmans, on croit à la Torah, on croit à l'évangile, on croit à l'islam. Nous, on ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence entre les prophètes qui sont descendus avant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Nous, on croit tous les prophètes qui sont descendus, en particulier les grands prophètes comme Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Ça, c'est les grands prophètes, donc on croit à eux. Nous, en tant que musulmans, donc on croit aux prophètes, on croit à ce qu'il a descendu Allah, les trois religions monothéistes. Mm-hmm. Donc les gens bombardent.
J'espère que vous allez rester avec moi sans me quitter, puisque je suis en train de vous écouter.
Oui.
Mais j'ai des réponses à vous donner. Et je n'espère pas que une fois que vous avez terminé votre discours, vous dites au revoir, vous partez. Hein.
Non, je pars pas. De toute façon, moi.
Parce que moi, j'ai des choses à vous dire.
Bah oui, mais bon, pas longtemps, parce que moi, je...
Ah non, écoutez, au moins 10 minutes vous avez parlé, pendant 10 minutes, oui, et vous devez rester. Que... Et d'abord, quand vous dites l'Islam va avoir la victoire, il n'a pas encore sa victoire, pas encore, c'est quoi la victoire de l'Islam?
Moi, je crois autant croyante, donc ouais. Je crois ce qu'il dit dans le... Ça ne pouvait pas m'enlever. Vous avez beau à parler, vous avez beau à dire n'importe quoi.
Non, non, laissez tomber, répondez, ne perdez pas votre temps. Et cette victoire, c'est quoi?
Ben, c'est-à-dire que la victoire, que ça sera la vérité, quoi.
C'est-à-dire que le monde entier va devenir musulman?
Inch'Allah, ben oui, normalement.
Merci. Deuxième question, Aïcha. Quand vous dites que vous croyez que le Coran est parole de Dieu,
ben
vous,
oui.
Vous permettez. Vous savez qu'il y a plusieurs millions de musulmans qui ne le croient pas.
Oui,
en plus, il y a
c'est
plusieurs.
Leur problème, hein.
Alors attendez, j'ai pas fini. Alors également, il y a plusieurs milliards de non-musulmans non plus qui ne croient pas que le Coran est parole de Dieu. Alors tous ces gens-là sont des provocants comme David Abbassi. Ce sont les ennemis de l'Islam, ce sont tatatitatata que vous me dites. C'est la liberté de l'expression,
non,
c'est quoi chez vous? La liberté de l'expression.
Eux, ils le pensent peut-être, mais ça c'est leur problème. Mais ils le disent pas haut et fort pour provoquer les gens. Parce que
quand vous êtes en train de me tuer, pourquoi je ne le dis pas?
Ah, bon,
même
bon,
il y a déjà 10 minutes, vous avez, si la personne était en face de moi, il aurait me tué. Vous avez tué mon commandant Massoud et vous venez de dire que c'était un terroriste.
Non, moi je suis pas d'accord pour les gens qui s'énervent.
Vous êtes pour les
moi,
individus, mais
pas,
dans le fond, vous êtes tous les mêmes. Autre chose, je veux vous dire, Aïcha.
Vous mélangez tout,
mais Miss Aïcha, princesse Aïcha. Non, je ne mélange pas tout. C'est vous qui vous mélangez. Vous dites que vous croyez à Moïse, vous croyez à Jésus comme des prophètes.
Oui.
Mais vous croyez à ces gens-là puisque ils étaient avant prophètes de l'Islam.
Oui.
Mais si vous croyez à Moïse, pourquoi vous n'êtes pas juif? Restez juif alors. Si vous croyez à Jésus, restez chrétien. Pourquoi vous n'êtes pas chrétien?
Mais je viens de vous dire, monsieur Abbassi.
Pourquoi vous êtes musulman alors? Parce que dans l'Islam, je vais vous donner un verset de Coran. C'est la verset de Coran, sourate Toubé, verset 29. Vous allez le lire. Dans le Coran, il dit qu'ils ne sont pas d'accord ni avec les juifs, ni avec les musulmans et les chrétiens. Alors, vous savez qu'un des piliers de pensée des chrétiens, c'est que Jésus, il est fils de Dieu. C'est-à-dire, vous demandez à n'importe quel chrétien, tous les chrétiens, ils croient que le Jésus, il est fils de Dieu.
Oui, ben c'est là où il y a en fait la divergence. C'est là où ils ont fait l'erreur, en fait, les chrétiens. C'est là où il y a la divergence.
Ah, voilà. Alors, vous voyez que vous mentez aussi quand vous dites que vous croyez en Christ. Vous mentez. Parce que le plié, le plus important chez le christianisme, c'est ça. Vous niez ça. Après, pour démagogie, vous dites...
Non, mais non, monsieur Abbassi. Là, vous mélangez tout.
Qu'est-ce que je mélange? C'est vous qui vous êtes en train de mélanger.
Non, pas du tout.
Même pour les juifs. Attendez. J'ai pas terminé. Même pour les juifs, vous dites que, ah, nous, on respecte les juifs, on croit en Moïse. Vous ne croyez pas en Moïse? Vous croyez que le Torah s'était détourné? Même dans le Coran, il dit... Permettez-moi, c'est dans le Coran qui est écrit. Moi, je vais vous lire le Coran. Dans le Coran également, il dit que les Juifs, ils pensent que Ozaïra était le fils de Dieu. Aucun juif ne croit pas qu'un individu nommé Ozaïra était fils de Dieu.
Oui, écoutez,
ce sont des mensonges qui existent dans le Coran. Vous voyez, quand vous étiez en train de parler... Quand vous étiez en train de parler, princesse Aïcha, je vous ai pas coupé, pourtant j'étais contre tous vos propos. Maintenant, je suis en train de parler, vous aussi, vous êtes comme les autres, vous ne pouvez pas supporter que je parle. Allez-y, parlez-vous, allez, je vous écoute.
Moi, je voulais vous dire, je parle pas des juifs ni des chrétiens, je sais qu'eux, ils ont fait l'erreur. Moi, je vous parle je vous parle des prophètes. Nous, on croit aux prophètes, parce que les prophètes, ils croyaient en Dieu. Voilà, nous, on le croit. Maintenant, les gens, s'ils veulent retirer, dans les musulmans aussi, aujourd'hui, il y a des musulmans, ils vont prendre la moitié de l'argent et l'autre moitié, ils vont pas la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les juifs et les chrétiens, c'est pareil.
Et vous niez le plié le plus important des deux croyances, christianisme et judaïsme, vous le niez dans le Coran. Et vous-même, je suis sûr que vous ne saviez pas que ça existe dans le Coran.
Dit, c'est pas vrai.
Et comment ça vous dit que vous dites que vous respectez ces gens-là?
Non,
alors, de l'autre, permettez-moi, j'ai pas fini. Quand votre Coran, il se permet de critiquer profondément le christianisme, profondément le judaïsme, alors David Abbassi, pourquoi il n'a pas le droit de vous dire que certaines choses n'existent pas?
Non.
Qu'est-ce que ça veut dire,
non? La critique, elle est sur les gens. sur les gens, pas sur la religion, ni sur les prophètes qui sont venus avant Mohammed salatu salam. Mais la critique, elle n'est pas sur les prophètes, ni sur la religion, sur les gens. Parce que aujourd'hui aussi,
c'est la pensée.
Certaines choses du Coran, mais Dieu il veille sur le Coran, ça ne sera pas retiré parce qu'ils ont déjà fait l'erreur avant sur les autres livres, sur la Torah, l'Évangile, mais ça ne va pas se reproduire, Inch'Allah.
Alors comment ça se fait que la Torah et l'Évangile ne sont pas bien, c'était détourné, le Coran qui s'était rassemblé plusieurs dizaines d'années après le prophète de l'islam. Moi-même aujourd'hui ici et maintenant je suis vivant. Je suis en train de parler. Pour la plupart des fois, les gens intégristes comme vous et comme les autres, vous ne m'écoutez pas bien. Alors, comment ça se fait qu'il y a déjà 1400...
Non, c'est pas vrai, c'est faux, ça. Impossible. Moi, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis juifs.
Première chose, quand je suis en train de parler, vous ne devez pas parler, Aïcha.
Ça se passe très, très bien.
Aïcha, si on parle les deux en même temps, personne ne va rien comprendre.
Écoutez, non, monsieur. Arrêtez de provoquer comme ça. Parce que vous êtes vraiment mauvais. Moi, je vous dis franchement. Parce que moi, j'ai des amis chrétiens et tout avec qui je parle. Jamais ils m'ont dit que vous êtes intégristes. Au contraire, ils m'écoutent. Je les écoute. Maintenant, après, chacun, il fait ce qu'il veut. Après, ne me dites pas que je suis intégriste. Ça, c'est faux, hein. Arrêtez de provoquer.
Alors, vous
les
êtes.
Gens. Bon, ben, moi, je vous laisse parce que j'en ai marre.
Ah, voilà. Intégriste,
c'est ça. Non, écoutez. Non, il n'y a pas intégriste.
Ok, merci. Au revoir.
Écoutez.
Ok, au revoir. Si vous voulez, intégriste, c'est ça, Aïcha. Maintenant que vous, je peux parler, je vais vous dire. D'abord, vous, les intégristes, vous ne laissez pas la personne parler. Moi, je vous laisse parler tranquillement. Mais je sais que si je vous laisse pendant une heure, vous allez faire de propagande pour votre croyance intégriste. Mais le moment que moi, je suis en train de parler, je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Le moindre chose d'être poli, être poli, c'est que vous êtes obligé de m'écouter. Vous ne m'écoutez pas, jamais. Vous venez de dire ce que vous voulez dire, et tout ça, c'est des insultes. Vous êtes. Quand je vous cite le verset de Coran, que votre Coran, il nie les pliés, le plus important de judaïsme, le plus important de christianisme, il le nie. Le moment que je suis en train de dire ça, vous dites blablabla, et vous me laissez parler, et après aussi vous dites au revoir, vous partez. Déjà, vous montrez vous-même que vous n'êtes pas tolérant. Vous n'êtes pas prêt à nous écouter, à nous entendre. Vous venez de dire ce que vous voulez dire, tout ça c'est des insultes. Moi, je vous dis que cette verset existe dans le Coran, verset 29 de Sourate Tawbah. Vous venez de dire, David, ça n'existe pas cette verset. Mais vous dites qu'on provoque. C'est vous qui vous êtes provocant, intégriste et terroriste en parole. Vous êtes en train de terroriser. Vous pensez que vous pouvez terroriser David Abbasi, il ne va pas être terrorisé. Alan, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Madani. Eh bien, je vous dois dire que...
Je ne suis pas Madani, Alan.
Oh, excusez-moi. J'ai une confusion.
Hey, David Abbasi. Alors, si tu fais une confusion dès le départ avec Madani, ça aussi c'est grave, Alan. Hein?
Oui, non, confusion, Abbasi même, d'accord. Parce que, voilà. Eh bien, je voulais dire que Dieu est pour tout le monde. Si l'on veut, Dieu appartient à tout le monde aussi. Et que Dieu, il n'est pas seulement dans un livre, on ne peut pas le mettre, les livres ne sont pas assez grands pour mettre Dieu là-dedans. Et que s'il y en a qui croient que la terre est encore plate, bon, il faudra qu'on attendre. Et par là aussi, on peut dire qu'on est fils de la terre, de la montagne, fils des étoiles, fils de Dieu, on est tous fils de Dieu, enfants de Dieu, comme on veut. Et qu'il faut se donner des libertés de nos croyances et... Que Dieu est pour tout le monde, Dieu ne s'appelle pas Allah, Dieu s'appelle comme on veut. Bon, il y en a qui croient que le livre est sacré parce que on ne sait pas qui a écrit le livre, il y en a qui vont dire qu'ils savent qui a écrit le livre ou les livres. Et pourtant, on ne sait toujours pas et en effet, il y a plein de choses comme ça, que ce soit surtout ces trois livres sacrés que l'on connaît, puisqu'il y a d'autres religions aussi, à part trois, au-delà de trois, et quant à moi, je ne crois pas à la religion, je crois plus en Dieu qu'à la religion. Et donc, j'ai pas besoin du livre pour connaître Dieu, pas parce que c'est moi, mais parce que Dieu, il est partout. Et je crois qu'on doit tous s'entendre, et que si on s'appelle frère et sœur, comme la sœur qui a téléphoné, alors, eh bien, il faut pas croire que la terre est plate tout le temps. Bon, peut-être que
mais
demain...
le Coran, il pense que la Terre est plate.
Non, je ne sais pas. Je ne sais
oui,
pas.
Il dit qu'il est plate.
Ah bon?
Oui, oui.
Donc on
est
encore
parlé,
à cette époque-là où les chrétiens le croyaient aussi, alors. C'est cela. Les chrétiens croyaient aussi, c'était l'Église qui croyait, qui faisait croire aux gens que la Terre était plate à l'époque aussi, alors.
Bon appétit.
C'est cela.
Ouais.
Donc, bon, alors on en revient au même.
Non, l'important, tu sais, Alain, de trois personnes qui sont passées avant toi, ce que ces gens-là, ils se permettent, t'as entendu, par exemple, Marie, ils se permettent de dire que le Torah et l'évangélique étaient déformés, et qu'il y a des critiques envers ces deux croyants, même peut-être toutes les croyances qui existent dans le monde. Mais de l'autre côté, si tu dis une petite critique sur l'islam et sur le Coran, oh là 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 là, tu es provocant, tu es, voilà. C'est ça, nous vivons où? Nous vivons où? Aujourd'hui, on est en train de juger 8 terroristes qui considéraient commandant Massoud était terroriste, on était allé le tuer. Alors aujourd'hui, sur notre antenne aussi, il y a les individus qui disent, lui, il était terroriste. Et aujourd'hui, encore, quand on dit à cet individu que vous vous permettez de dire que Torah et évangélique s'étaient déformés et ces deux croyances s'étaient détournées, vous dites tout sur cette deux croyances et sur les autres croyances aussi, sur les autres religions aussi. Mais de l'autre côté, dès que tu commences à critiquer avec la sagesse, avec l'intelligence, certains versets de Coran qui est écrit noir et blanc, tout d'un coup, on va te terroriser. Ce sont des terroristes. Ils pensent qu'avec ça, moi je vais être terrorisé et demain je veux plus faire mes émissions. Non, madame, non, monsieur.
Pour cela qu'on vous a menacé de mort, un frère vous a menacé de mort il y a une demi-heure.
Voilà.
C'est cela. Eh bien, c'est bien dommage tout ça. Et en effet, si on pouvait pas critiquer ne serait-ce que l'islam ou d'autres religions, ça serait immuable pour l'éternité. Comme il y en a qui parlent de flammes d'enfer pour l'éternité.
Surtout que c'est l'islam politique qui aujourd'hui il est en train de tuer les gens.
Et
c'est
oui.
L'islam politique. On est tout plus personne au nom de christianisme. On est tout plus personne au nom de judaïsme.
Oui, oui,
au nom de bouddhisme. Au nom de, j'en sais pas quoi. On est tout plus personne. Aujourd'hui, on est en train de tuer au nom de l'islam à Darfour, en Afghanistan, en Irak, au Liban et partout. Et
en
ces
Europe,
gens-là, en Europe. Et ces gens-là, je ne sais pas comment ces terroristes-là, ils peuvent encore marcher en France. Qu'est-ce qu'ils font les services de renseignement?
Chacun croit de son côté qu'il a lu le verset mieux que l'autre sur le sujet.
Mais tu as entendu, ils disent que tous les autres étaient musulmans. En plus, il dit victoire de l'islam, c'est quoi? De conquérir le monde. Ils pensent que l'islam va conquérir le monde, même ici.
Ces gens-là sont prêts
à tuer David Abbasi. Voilà. Le danger, c'est quoi? Heureusement que... moi, je suis contre George Bush contre ce qu'il a fait. Mais une chose que j'admire chez les Américains, c'est de déclarer la guerre contre le terrorisme islamique. C'est-à-dire, ils ont déclaré cette guerre, ils ont eu le courage. Aujourd'hui, si quelqu'un va entrer en Amérique, c'est tellement difficile pour entrer aux États-Unis. Mais pourquoi? Puisqu'ils sont en train de surveiller bien leur territoire. Alors, de l'autre côté, ils ont déclaré avec un grand courage une guerre contre le terrorisme islamique. Ils ont nommé ça terroriste islamiste. Ça, c'est du courage.
Oui.
C'est du courage. Parce que vous voyez, il y a déjà même 10 minutes, on vous dit qu'on va conquérir le monde.
Oui. Alors, on parle de gloire.
Ces gens-là
de...
qui pensent que moi, je suis en train de provoquer, c'est elle qui est en train... Vous voyez, des provocants, c'est ces gens-là.
Les mots aussi.
Quand David ne parlait pas, et vous n'avez plus de conscience, vous n'avez plus la lumière... Vous restez dans les ténèbres, même les Européens qui ne connaissent pas bien l'islam, ils vont accepter les paroles de Aïcha, comme il vient de dire, ses voisins, et le croient. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses que les autres ne savent pas. Il parle de 4 versets de Coran qui parlent de la gentillesse, qui s'était copié de Torah et d'évangélique et d'Avesta. Les versets sympas et gentils. Mais il ne parle pas des versets violence et de verset que lui-même il vient de nous citer tout à l'heure qu'il va conquérir le monde.
Voilà, donc si vous me permettez, donc que dire de la gloire de Dieu ou de la gloire de l'islam qui va dominer le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? La gloire d'une religion qui va dominer le monde ou la gloire de Dieu parce que Dieu est déjà glorieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu déjà domine l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il va rentrer dans votre maison, mais il est déjà dans votre maison à ce moment-là, il est partout. Et pourquoi s'apparenter Dieu? Pourquoi prendre Dieu pour soi-même, pour dire « il nous appartient ». Dieu est à tout le monde. Il est aux Indiens d'Amérique du Nord ou aux animistes, à tout le monde, je veux dire. Il est à tout le monde, il n'est pas que aux religions non plus. C'est les religions, en fait, qui sont très politiques, qui dominent le monde plutôt que Dieu dans ce cas-là. Alors que Dieu, il est déjà glorieux. On n'a pas besoin de qu'il vienne avec de toute sa gloire. Il est déjà là et je ne sais pas les gens ce qu'ils en font. En fait, c'est eux, comme vous disiez à l'autre monsieur, là, c'est toi l'enfer. Il y en a qui se créent l'enfer eux-mêmes. Au lieu de dire, en effet, comme la dame disait, il faut parler gentiment, ceci, cela, mais c'est nous, c'est les humains qui créent leur enfer eux-mêmes. C'est pas... Et l'enfer pour l'éternité, c'est bien misérable, parce que si Dieu, vraiment, il existe, pourquoi enverrait-il les gens à l'enfer pour l'éternité? Donc, moi, je crois que l'enfer pour l'éternité n'existe pas, et que c'est nous qui le fabriquons, l'enfer. Mais Dieu, il est quelque part, mais pour le toucher, on peut même pas savoir qui il est, tellement il est grand. Et un livre ou des livres ne suffisent pas, il faut des millions de kilomètres de livres pour parler de Dieu ou pour l'expliquer. Alors donc, sourate, verset du Coran, verset biblique ou de la Torah, je crois qu'on enferme ça dans un petit livre. Il est petit le livre en fait. Voilà, vu du point de vue matériel, il est très petit et spirituellement, on en fait ce que l'on veut. Actuellement, on est bien plus large, bien plus étendu que le livre, nous-mêmes, dans notre conscience et tout ça. Il ne faut pas s'arrêter là. Je vous remercie.
Merci Alain.
Merci, au revoir.
Au revoir Alain. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Bonjour Dominique.
Je comprends pas. Bonjour à tous les auditeurs. Hein. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est que pourquoi vous faites pas parler plusieurs personnes en même temps, ça nous éviterait d'attendre 10 minutes. Enfin bon, peut-être.
Ah, vous avez raison. D'accord.
C'est votre méthode. Non, mais bon, je ne critique pas.
Non, ça t'a tout à fait raison.
Alors d'accord. Donc moi, ma vision du monde, elle est simple. Hein. Moi, le mot Dieu, je l'enlève de mon vocabulaire et ce que j'ai à vous dire, donc j'aimerais qu'on me laisse le dire. Hein. Moi, pour moi, ma vision du monde, c'est que la haine a été véhiculée depuis l'origine du monde, tout simplement à travers ces rapports hein, entre les hommes, hein, ces rapports de pouvoir, et puis après ces rapports plus ou moins de pseudo-pouvoir, de voyance, d'hospice, d'augure, et puis après les dieux sont arrivés. Hein. Les grands prêtres ont commencé à exister parce qu'ils ont conçu, ils ont fait des concepts, ils ont eu des concepts pour transformer les forces de la nature en déesses ou en dieux, et puis après le concept de Dieu est arrivé. Alors moi ce que je peux vous dire c'est que je pense que des gens comme Jésus-Christ, Mahomet, Moïse ont existé de la même façon que Platon, Averroès, hein,
ouais.
Le Marquis de Sade, Hegel, Galilée, Marx, Jean Moulin, etc.
Bien
ce
sûr.
Sont des gens qui ont sans doute existé. Mmh. Seulement, il y a eu des interprétations de leurs actes pendant qu'ils vivaient leur vie, et puis il y a des gens qui ont récupéré cela. Ça fait 2000 ans que les textes, il y a des textes qui ont été écrits à l'époque, et puis l'histoire n'est que réinterprétation. Donc, qui dit réinterprétation dit vérité et mensonge. Ça fait 2000 ans que dans tous les secteurs, on ment. On ment. Et cette haine a grandi puisque les communautés se sont séparées à cause de ces mensonges. Et puis les écrits ont séparé les hommes. Et donc, eh bien, depuis 2000 ans, des milliards d'individus, de femmes, d'hommes et enfants ont été tués pour ces raisons-là. Pour des textes qui ont été réécrits, et qui n'ont fait que véhiculer à la fin des mensonges. Parce que quand on rajoute à chaque fois qu'on réinterprète, on aboutit à des mensonges de totaux. Des mensonges véritables, ce qui fait qu'on oublie que finalement Jésus-Christ était un simple homme qui n'a jamais voulu que les gens se déchirent pour lui, ni Mahomet. Sans doute, il a voulu créer une association et puis il a fait ses trucs, mais il n'aurait jamais souhaité que des millions de gens meurent pour lui, Mahomet, de la même façon que Bouddha, Shakyamuni, etc. Donc moi, je crois en la science, je crois en l'histoire des hommes, mais je dis que les hommes ont démontré une bêtise hallucinante en donnant une importance à ces textes-là, une importance fondamentale. C'est une grosse erreur. L'histoire des hommes, elle est liée à la matière, aux forces de la nature et à l'intelligence. Or, l'intelligence, on ne l'a jamais vue dans les prières. Aucune prière depuis 2000 ans, depuis des dizaines de milliers d'années même, aucune prière parmi les milliards de prières qu'il y a eu, aucune prière n'a transformé le devenir d'un seul brin d'herbe. Moi, je suis prêt à donner ma vie si on me prouve que des milliards de prières peuvent transformer quelque chose à la réalité, vous comprenez? Donc voilà, moi, ma vision du monde. C'est qu'aujourd'hui, la haine qu'il y a sur cette planète, elle est due à des réinterprétations, elle est due à effectivement des récupérations politiques et politiciennes, parce que l'homme a ça dans sa nature profonde, ce goût pour le pouvoir. Et puis voilà, regardez Pie XII, quand il a su que les Juifs se faisaient massacrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi en homme d'affaires, il a rien fait parce que les banquiers juifs, les banquiers suisses, etc., etc. On pourrait dire des tas de choses sur l'histoire, hein. Donc il faudrait peut-être arrêter cette haine, et puis de dire que l'histoire qui se passe aujourd'hui entre un Massoud, qui est effectivement été un héros de la résistance contre les Russes, eh bien c'était quand même un criminel parce que c'était un militaire. Si on arrêtait de fabriquer des armes, si on se parlait uniquement avec des mots au lieu d'avec des armes ou des faux textes, on pourrait peut-être mieux évoluer dans ce monde. Les politiciens, c'est pareil, ce sont tous des menteurs. Ce sont tous des menteurs, d'après moi. Jamais ils vont transformer, par exemple, le futur des jeunes d'aujourd'hui. Jamais ils vont leur promettre des emplois parce qu'ils n'ont pas de solution. Donc quand on n'a pas de solution, on ment. Hein. La Constitution européenne à laquelle on pense aujourd'hui, c'est que des mensonges. Moi, je l'ai lu, je l'ai décrypté. C'est que des mensonges et c'est une dialectique très floue. Hein. Donc c'est effectivement l'avenir aux bourgeois, aux nantis, et c'est la réalisation d'un immense sang d'esclaves européens qui servira finalement uniquement les riches et les nantis qui seront 5%.
On va écouter conseil, Dominique. Anouk, bonjour, nous sommes avec Dominique aussi. Merci, bonjour Anouk.
Bonjour.
Bonjour.
Princesse bonjour, moi je réagis un petit peu, enfin je réagis même fortement à ce que j'ai pu entendre. Je crois que c'est facile de souhaiter la destruction de quelqu'un, que c'est beaucoup plus compliqué d'accompagner une construction. J'écoute vos émissions, Monsieur Abbassi, même si j'interviens pas forcément, mais ça m'apprend beaucoup de choses et je sais que ça m'apprend aussi à décrypter parfois des choses que j'aurais, des comportements que j'aurais pas saisis ou des choses que j'aurais pas comprises ou même entendues ou même j'aurais pas pris porté attention à. Moi, je voulais appeler pour vous souhaiter une longue et belle vie. Et surtout, moi aussi, je souhaite qu'on s'entende. Je pense aussi que dans la prière, il y a la transcendance. Donc la transcendance, ça permet d'ouvrir et de sortir peut-être de la petitesse qui est aussi parfois aussi en chacun. Hein. C'est vrai que moi, ces guerres ou ces haines, j'essaye de les dépasser. Je trouve qu'il faut accompagner l'ouverture, voilà.
Excellente princesse Anouk.
Oui, c'est bien.
C'est bien, Dominique. Hein?
Oui, moi, je suis d'accord que la prière, elle est individuelle et elle est dans son rapport au monde. Mais qu'elle ne soit pas en rapport avec aucune divinité, parce qu'il n'en est pas, ça n'existe pas. Enfin, je m'excuse par l'an scientifique, hein. Il faut essayer de comprendre que la nature, la vie est un cadeau fait par la nature et par des procédés physico-chimiques qui sont excellents, qui relèvent du miracle. Donc le seul miracle qui peut exister, c'est ce hasard qui a apporté la vie sur Terre. Et voilà, donc là on peut prier, on peut penser, mais adresser sa prière à un personnage ou à une entité ou à un dieu précis, moi ça m'apparaît comme une aberration. Enfin bon, voilà, hein. Ceci dit, je ne veux pas enlever la valeur sacrée qu'il y a chez les gens. Moi, je suis athée, mais je suis tolérant. C'est-à-dire que moi, par exemple, la loi contre le voile, je suis contre. Moi, j'aurais préféré que les musulmans aient un voile, j'aurais préféré que les bouddhistes s'habillent en orange, j'aurais préféré que les Américains du Sud s'habillent en vert et jaune, j'aurais préféré voir tous les costumes possibles et imaginables, voyez ?
Après, la République et les citoyens n'existaient plus. Anouk, qu'est-ce que vous pensez, princesse ?
Moi, je pense que je crois que là, il faudrait s'intéresser à ce que portent les hommes en eux plutôt que de regarder en haut, regarder ce qui est en soi, essayer d'établir des relations si possible amicales et pleines d'amour, mais sinon au moins d'entente entre les gens. Bon, je sais que ça paraît, quand je dis ça, on pense que je suis une douce rêveuse, mais
moi
j'essaie
hein.
d'écouter même des gens qui a priori me mettraient en colère et de me dire mais pourquoi est-ce que je suis confrontée à cette personne-là, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça passe pas et qu'est-ce qui fait que ça passe pas. sans forcément prendre les choses pour moi, mais en décryptant, vraiment en étant que dans le décryptage. C'est peut-être petit. C'est vrai aussi que j'essaye de voir, de commencer plutôt dans les relations. Moi, je crois beaucoup que c'est beau de rencontrer des gens, c'est beau d'avoir l'envie de réussir sa vie et d'aller vers ça. Et c'est dommage, moi, quand je vois des gens qui se font exploser, ça me terrifie. Je me dis, mais c'est pas possible que des êtres humains aient pour but de faire ça. Ça m'interpelle. Je n'aime pas la souffrance.
Excusez-moi de vous dire ça, mais ils sont conditionnés et drogués quand même. Hein.
Peu importe.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Oui, certainement, mais n'empêche qu'ils sont quand même des êtres humains.
Bien sûr.
Et moi, c'est vrai que j'ai envie d'une transformation. J'ai envie de la paix.
Bien sûr. Mais toujours la paix quand on construit des milliards de revolvers chaque année sur cette terre, vouloir la paix, c'est un petit peu incompatible, quoi, c'est ça. Hein.
Ouais, mais si, vous savez, je crois aussi qu'il ne faut pas toujours accuser les autres.
Non, mais accuser les armes.
C'est aussi nous. C'est aussi nous qui votons pour ces gens-là. C'est aussi nous qui avons mis en place ces pouvoirs-là. C'est aussi notre façon de regarder ou de penser l'autre. Moi, il y a des gens très franchement qui parfois me critiquent beaucoup. Moi, j'ai plus à souffrir. Moi, j'ai eu à souffrir carrément, mais vraiment personnellement parfois de ce qu'on appelle l'antisémitisme. Bon, j'essaye de décrypter, de dépasser et de me dire mais cette société, c'est aussi moi et moi, je veux construire autre chose.
Bien sûr.
Moi, pour mes enfants, pour les gens que j'aime, pour ma famille qui est vraiment plurielle, pour tout le monde, pour le monde entier, je veux dire, il y a des gens qui valent le coup partout.
Oui, mais ça c'est intéressant, mais figurez-vous que si le monde devient de plus en plus violent et qu'on construit des armes de plus en plus, est-ce que vous pensez que votre famille ou vos descendants vivront dans un monde rassuré, dans un monde où ils pourront transcender ?
Si vous voulez, je pense que la douceur c'est déjà une force,
oui.
Et je pense aussi que c'est aussi libre à nous de. Enfin, moi, je pense que c'est libre à nous d'essayer de créer autre chose. Mais
voilà.
Pour créer autre chose, il faut aussi avoir un regard ouvert sur l'autre.
Bien sûr, mais alors quand vous voyez que sur toute la planète, dans toutes les élections mondiales, on s'aperçoit que le taux d'abstention grandit de plus en plus. Quand vous dites qu'on a voté pour ces gens-là, moi, c'est faux. Je vous dis que, par exemple, en 2002, il y a eu beaucoup d'abstention. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté. Donc, ça veut dire qu'on ne veut plus de ces gens-là qui font des guerres et tout
mais
ça.
Si on veut plus
hein,
ces
il y a des antipathies.
C'est pas ne pas voter qui est efficace, il faut le dire.
Il faut le manifester
et l'exprimer clairement.
À part cette radio, effectivement, si on pouvait s'adresser à la télévision ou à la radio, mais on nous en empêche. Les pacifistes n'ont pas de voix, par exemple, à la télévision. Vous verrez jamais une émission sur le pacifisme. Hein. Donc c'est ce monde-là. On voudrait transformer ce monde, vous et moi. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faudrait passer par des sacrifices, il faudrait arrêter de fabriquer des armes, il faudrait redistribuer les richesses convenablement, etc. Et puis peut-être avoir un rapport nouveau avec la religion, effectivement, et puis voilà.
Certainement avec le pouvoir et avec l'argent, j'en suis aussi d'accord.
Voilà.
Je vais finir par une boutade peut-être, on finira peut-être par avoir, si on continue, la journée des pacifistes, comme on a la journée de la femme,
on l'aimerait,
la journée des enfants.
On aimerait ça, madame. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour ça, vous savez.
Un petit peu ces journées comme ça qui ont été édifiées alors que les êtres humains sont présents tous les jours et qu'il faut travailler tous les jours et ouvrir tous les jours et être en... Enfin, moi, je pense que franchement, la paix, le bonheur, ça existe et qu'il faut le construire. Hein.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui nous en empêchent, notamment les pouvoirs et les États, vous voyez ?
Non, pour moi, les gens qui nous en empêchent, ce sont les gens qui vont dans l'autre sens, le sens de la destruction et pas de la construction.
Exactement.
Ce sont les États. La plus grande violence, c'est
les États. Tu sais, pour nous parler des fois, ce n'est pas les États, Dominique. Pour nous parler des fois, c'est les pensées intégristes. Et,
non, mais
c'est certaines idéologies intégristes qui ramènent même l'État de prendre certaines décisions de temps en temps.
Monsieur, si.
Oui.
Mais bon, moi, je suis pas très riche. Quand je vous appelle, c'est vrai que je suis un peu exigeant, mais j'ai envie de vous parler et puis de vous écouter après.
Je vous
après.
Écoute, Dominique. Je vous
Merci.
Écoute.
Alors, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que vous êtes un peu orienté dans votre émission. Moi, je considère que vous devriez être universel hein, dans votre critique des religions et pas peut-être être polarisé sur l'islam, hein, par exemple, ou le bouddhisme, ou le judaïsme.
Actuellement,
hein.
Le danger,
moi, j'aurais
c'est
aimé
ça.
Une critique du christianisme aussi, par exemple. J'aurais aimé hein, une critique du christianisme. Hein. Moi, en tant qu'athée, je m'intéresse à tout,
ouais.
Mais je veux bien qu'on critique aussi le christianisme. Hein. Pourquoi pas hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pas toujours assommer les mêmes. Bon, tout à l'heure, j'ai trouvé un peu violent la réaction du monsieur. Peut-être il faut être consensuel et puis vouloir discuter plus que de vouloir s'insulter. Alors, c'est vrai que parfois, peut-être vous avez des mots un peu toujours dans la même direction, mais je vous comprends. Vous voulez faire de la provocation comme dans Charlie Hebdo, mais dans ce cas...
Non. C'est, écoute, mais Dominique, moi, c'est vrai que tu veux parler...
Moi, j'aime bien Charlie Hebdo, hein, vous voyez, parce que là, il y a de la parodie.
Tu sais, c'est la question de jour. Depuis déjà plusieurs années... Ouais. Aujourd'hui, c'était le procès de 8 terroristes qui ont tué le commandant Massoud. Et heureusement, après toutes ces années, nous avons eu des gens sur notre antenne qui soutenaient cet assassinat en disant que le commandant Massoud était terroriste et de l'autre côté, qu'il voulait que le monde entier devienne musulman. Tu comprends?
Non, attends.
Et les politiques, nous aussi, si, ça fait 18 ans que moi je fais mes émissions, ça fait 25 ans que cette radio existe. Si tu nous as écoutés depuis le départ, on critique aussi les pouvoir, même au départ de mon émission, j'ai critiqué les pouvoirs, chaque semaine aussi, on le fait. Mais une chose que moi je n'aime pas, Dominique, je veux te dire tout de suite, c'est que quand tu viens de critiquer un voleur, on dit pourquoi tu ne parles pas de l'autre individu qui habite à côté de chez moi. Moi, actuellement, j'ai un voleur en face de moi, surtout j'ai un terroriste en face de moi qui, il y a déjà 30 minutes, il vient de me menacer. Cet individu, il est c'est-à-dire quand je dis cet individu, les gens comme lui, ils sont en train de massacrer les gens en Israël, en Irak, en Afghanistan et partout dans le monde. Ça, c'est la question de jour.
Je vous comprends, mais...
Mais tu vois que nous évoquons d'autres problèmes aussi.
D'accord,
pourquoi
mais
pas?
De vous avoir...
Moi, j'ai commencé aujourd'hui avec la question de référendum. On a parlé de référendum, tu vois.
D'accord.
Mais après, on arrive à ça.
J'ai entendu depuis le début, mais de vous à moi, les assassins du commandant Massoud, c'est quand même les Américains qui les ont commandités, vous le savez, ça.
On n'a pas encore jugé ces gens-là.
Moi, je vous le dis.
Le procès, ça va finir le 20 avril à Paris.
Alors,
et
ce
procès, c'est très important. On va voir si on voit la main des Américains dedans. Non, non.
Je suis d'accord avec vous de dire que l'islamiste radical qui fait exploser est dangereux, mais il faut pas confondre musulmans. Il y a 98% de musulmans.
On ne parle pas de musulmans, on parle de l'islam politique.
Oui, l'islam.
Voilà.
C'est-à-dire des terroristes. Bon, d'accord.
Mais il y a des individus musulmans.
Vous avez dit que les Américains avaient été très courageux de provoquer les islamistes. Là, je ne suis pas du tout d'accord.
Provoquer, pour déclarer la guerre contre terroristes
islamistes. Mais c'est pas du tout du courage, ça, monsieur. C'est de la lâcheté. Parce qu'avec les moyens qu'ils ont, ils pourraient très bien ne pas faire de propagande. Ils ont fait une propagande pour les talibans, par exemple. Vous le savez très bien, avec moi, avec les Pakistanais. Les services secrets de tous les pays sont impliqués, mais ça, on n'en parle jamais. Alors, traiter les Américains de courageux, notamment en Irak, je ne suis pas d'accord avec vous, hein. Voilà.
Non, pour l'Irak, je vous ai dit, Dominique, que j'étais contre.
Ouais.
Mais pour le combat contre le terrorisme international islamiste, je suis... d'accord avec les Américains.
Oui, mais l'Arabie Saoudite, elle est complice aussi.
Il est dedans, bien sûr. L'Arabie Saoudite, elle est dedans, les Britanniques sont dedans.
Et l'Arabie Saoudite, elle est complice avec les Américains.
Bien
sûr. D'accord. Voilà.
Bien sûr. Non, l'Arabie Saoudite,
donc,
tu sais, que les investissements qu'ils ont aux États-Unis sont assez importants.
Bien sûr.
L'Arabie Saoudite, Ben Laden, c'était d'abord l'enfant de Saoudiens.
Oui,
tu comprends?
Bien sûr.
Voilà. Et tu sais, pour les Saoudiens, ils voulaient sortir les Américains de chez eux. C'est pour ça qu'ils ont créé avec eux les autres conflits.
Oui.
Puisqu'ils étaient en Arabie Saoudite, les Américains, après l'attaque de Koweït.
Bien sûr, monsieur Abbasi, je connais tout ça. Mais par contre, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez des islamistes qui ne sont pas des terroristes, hein, et qui sont contre la terreur par les explosions de bombes, par exemple. Vous avez des islamistes qui sont des islamistes modérés et qui sont contre la violence.
Ah non, c'est des musulmans, là. Les islamistes.
Faut pas, non, justement, c'est là où je vous trouve trop radical. Je crois qu'il existe des islamistes non violents, de la même façon qu'il existe des musulmans non violents, mais qui ne mettent
pas... À votre avis, quelle différence entre musulmans et islamistes?
Bah écoutez, l'islamisme actuel est médiatisé, ce qui est une hypocrisie d'ailleurs, parce que les médias font beaucoup de mal.
Mm-hmm.
Quand on médiatise des terroristes, évidemment, on stigmatise les islamistes sur toute la planète et puis on les dénonce en tant qu'assassins. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des islamistes qui sont terriblement dangereux, comme il y a des chrétiens qui sont terriblement dangereux, notamment les anti-avortements. Ça, c'est la même veine à peu près. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'islamistes qui ne tuent pas, et je dirais que 99% des musulmans ne tuent pas et sont sages autant que les chrétiens, etc. Voilà.
Moi, je suis moitié d'accord avec
vous.
Mais une chose que je vais vous apprendre, Dominique, quand on dit islamiste, ça veut dire les gens qui croient en... politiques islamiques.
Voilà, donc ce sont des politiques.
Les politiques islamiques, à mon avis, doivent être interdites. Mais ouais, les musulmans, c'est autre chose.
Ouais, mais alors, si on interdit les politiques islamiques, il faut interdire l'Opus Dei, il faut interdire les congrégations chrétiennes et les grandes associations comme la Trilatérale, où il y a tous les grands argentiers du monde entier. Il y a George Bush, Raymond Barre, etc. Tous ces grands clubs privés, le Club de Rome. Vous voyez, il faut interdire beaucoup de choses. Il n'y a pas de raison qu'on interdise certains islamistes et qu'on ne touche pas aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les choses ne sont pas si simples, hein, sur la planète. Voilà, monsieur Abbassi, je vous remercie
Dominique.
De m'avoir laissé parler, en tout cas.
Avec plaisir.
Et je dis bonjour à tous les auditeurs.
Nous sommes avec
la
princesse Anouk. Au revoir, Dominique. Anouk.
Oui, ben moi je trouve pas que vous provoquiez, je trouve que vous essayez de nommer parfois et de décortiquer. C'est comme ça que je me suis exprimée. Je suis vraiment, enfin moi c'est ce que je ressens, hein,
ouais,
à chaque fois, et je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Voilà, moi je pense que le monde tel qu'il est actuellement me plaît pas forcément, mm-hmm, mais plutôt que de me plaindre, j'essaye de, à ma manière, donc d'essayer d'en créer un autre. Et avec mes petits moyens, j'espère mes grands moyens aussi bientôt, mais j'essaye de réussir ma vie. Et je crois que si chacun essayait de réussir sa vie et de pas envier la vie des autres ou d'être dans une entente ou une recherche d'entente, déjà il y aurait autre chose et on aurait peut-être aussi d'autres dirigeants. Et parce que moi les services secrets, etc., c'est pas... chacun fait ce qu'il veut, les gens font le métier qu'ils veulent. Moi, je dénonce pas quelque chose qui a en tout cas été mis en place par la plupart d'entre nous et qui en tout cas fonctionne et qui n'a pas été dénoncé et qui n'a pas été, je dirais, changé. Plutôt que de critiquer, en général, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux proposer.
Bien sûr.
Et essayer d'amener un changement, déjà en étant dans une ouverture soi-même. C'est tout.
Bien sûr. Très intelligente votre intervention, Anouk. Princesse, je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie à vous aussi.
À bientôt.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Anouk. Voilà, c'était Princesse Anouk sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Nous savons ce que nous faisons. Pourquoi? Puisque nous faisons depuis déjà des milliers d'années. Jamais on ne va pas être terrorisé concernant les paroles que de temps en temps on va évoquer pour nous censurer. Et c'est pour ça que on vous laisse aussi de vous exprimer. Vous avez la parole, mes chers amis. On va prendre Jean. Jean, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean.
Bonjour David. J'admire beaucoup ce que tu fais. Et je voudrais exprimer une idée et te demander ce que tu en penses.
Oui.
Voilà. De mon point de vue, on est à l'échelle mondiale dans une gigantesque guerre des ventres. Les pauvres sont soi-disant aimés, mais en réalité multipliés. C'est comme les petits pains du Christ, hein.
Ouais.
On multiplie les pauvres. Alors j'entends parler d'une multiplication par 4 de la population africaine en 50 ans, une multiplication par 6 sur le territoire d'Israël pendant à peu près la même période. Enfin bref, ça va finir mal pour la planète. Alors je me demandais, moi, si, et là ça fait écho à ce que disait un auditeur très avant moi là,
ouais,
mais est-ce que il faudrait pas souhaiter une organisation mondiale qui serait chargée d'aider les vieux, parce que parmi les raisons de cette surpopulation, il y a aussi les raisons éternelles qui sont que les jeunes servent à nourrir les vieux de toute éternité, hein, en plus d'être les ceux qui font vivre la tribu, l'État, maintenant les entreprises, les supermarchés, donc 10 euros par ou 10 dollars par mois à tous les vieillards de la planète, qui sont pas très nombreux, parce que on aime beaucoup trop les enfants pour que les vieillards fassent de vieux os sur Terre, et les enfants, peut-être qu'ils sont de meilleurs soldats plus vite. Hein, on entend parler des bébés soldats et tout ça. Bon, bref, une plutôt que d'être bêtement, à mon avis, contre la mondialisation, souhaiter une autre mondialisation, mais qui aurait le mérite d'aider les vieux, mais de façon irrévocable et ne pouvant pas être remise en cause. C'est pour ça que les ONG me semblent pas du tout faire le poids dans ce domaine. Il faut un truc du genre ONU mondial qui fasse que les gens considèrent que si une retraite même très modeste était versée, elle serait irréversible et pour toujours. Hein.
Bonne idée, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une bonne idée, très 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 bonne idée en plus, oui. Oui, Jean.
Oui, parce que là, on résoudrait du même coup le problème des guerres. Je suis à peu près sûr que la carte des guerres recouvre la carte de la surpopulation. Hein. Mmh. Bon, et donc à quoi bon finir de détruire la planète? Et quand j'entends le fanatisme de certains, là, vraiment, on n'aura pas le temps de sauver la planète avant d'avoir créé une concorde et une paix et une certaine sagesse chez les êtres humains. Alors voilà une idée que je n'ai vue nulle part, j'ai beau chercher. Hein.
Très intéressant cette idée.
Surpopulation, retraite des vieux, il y a, je sais pas, 100 000, des millions d'ONG, aucune semble avoir en fait pensé que la retraite aurait pour effet de faire baisser le niveau d'inquiétude des gens quant à leur avenir en tant que vieux.
Très intéressant. Farid, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Allô? Oui, Farid. Oui, j'ai pas tout écouté, mais je crois que le monsieur, quand même, d'après le peu que j'ai entendu, a raison, comme les deux intervenants juste avant. Je crois que c'est Dominique et puis la demoiselle là.
Anouk.
Oui, alors moi ce que je voudrais dire, c'est que les religions, quelles qu'elles soient, bouddhistes, musulmanes, chrétiennes, juives, peu importe, de toute façon c'est une affaire personnelle. Alors là on est en train d'ériger les religions en espèce de parti politique ou d'idéologie, alors que la foi, lorsqu'un homme est en train de mourir ou de souffrir, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il s'appelle Ahmed ou qu'il soit David ou Moïse ou je ne sais qui, ou Christian, je crois qu'il aspire qu'à ne pas souffrir.
Bravo.
Et
bravo.
Pour le moment, oui. Quand on regarde dans le monde les gens qui fabriquent les armes,
ouais.
Quels sont les pays à l'heure actuelle qui fabriquent les armes? Est-ce que ce sont les musulmans? Je te pose la question.
Ils le consomment.
Je parle des gens qui ont fait, qui ont mis toute leur énergie de l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle peut être bonne et mauvaise aussi. L'intelligence, elle n'est pas toujours au profit de l'humanité. Elle peut être au profit de son égoïsme et de son pouvoir. Actuellement, quels sont les gens qui veulent dominer les autres? Par leur technologie, par leur argent et par leur intelligence. Parce que l'intelligence, ça peut être diabolique aussi. Alors, il faut prôner l'amour. Lorsque tu es en train de critiquer l'islam, le Coran, Allah, je crois que tu ne prônes pas l'amour, tu prônes la haine. Maintenant, tu vas dire, ne fais pas d'accusation, parce que tu dis tu. Mais en l'occurrence, là, on est en train de discuter. Je pense qu'il n'y a aucune religion qui est au-dessus d'une autre. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre.
Bravo.
Personne n'a le monopole
ça, c'est très
de la
intéressant.
Vérité.
Ça, c'est très intéressant de la part de
voilà.
Farid.
Voilà. Maintenant, le fait de rabâcher...
C'est-à-dire tu es d'accord que l'islam n'est pas supérieur aux autres.
Écoute, il n'y a aucune religion qui est supérieure à une autre. Parce que qui est capable de dire que toi, si tu pries en direction de la Mecque, ou si tu pries à genoux devant dans une église ou dans un temple chez les juifs, est-ce que celui-là a la vérité? Qui a la vérité? Un homme, il est quand il naît, il est pareil. Quand il meurt, il est pareil. Comme disait le chanteur, lorsque quelqu'un est mort, il pourrit. Et le sang, il est rouge pour tout le monde. Donc on a tous envie de manger, on a tous envie de paix, mais seulement l'homme, il est mauvais dans le sens où il va avoir le pouvoir. Actuellement, qui a le pouvoir sur cette terre? Parce qu'il y en a un qui veut dominer l'autre, il y en a un qui veut manger tout le gâteau et donner des miettes à l'autre, et exploiter l'autre. Actuellement, les musulmans, ce sont, je parle des pays musulmans, africains, enfin des pays du tiers-monde. Ce sont eux, on leur met des dictateurs, on les spolie, on les colonise, on les décolonise. Après, on leur vend des armes, on les fait battre entre eux, on exploite leur pétrole, leur gaz. Ça, c'est un don naturel. Tu peux avoir un climat tempéré, tu peux avoir le Sahara, tu peux avoir le désert, tu peux avoir la famine, tu peux avoir les criquets pèlerins, tu peux avoir des tas de problèmes. Alors, on fabrique des armes au lieu d'aider ces gens-là. À partir du moment où on fabrique des armes, les gens qui fabriquent des armes, je les mets pas tous dans le même sac, parce que je parle de l'Occident. Ce sont les dirigeants, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, ou peu importe qui ils sont, l'homme, il cherche son profit, son orgueil et la domination de l'autre. Mais le fait de dire l'islam est pas bon ou le christianisme est pas bon, tu es en train d'alimenter, de mettre de l'huile sur le feu. Ça, c'est mauvais.
Alors, Jean, qu'est-ce que tu penses des paroles de notre ami Farid?
Je crois pouvoir être d'accord avec tout ce qu'il dit, seulement mon intervention prenait le problème un petit peu plus haut. Il y a le constat, et tu restes au niveau du constat,
ouais.
Et il y a peut-être les moyens d'en sortir. Mmh. Alors certains croient au développement, certains croient à la culture. Moi, je voudrais dire que je crois à la retraite des vieux.
Mmh. C'est une bonne idée, Jean. Vraiment, c'est une bonne idée.
Tu sais pourquoi?
Ouais.
Je suis à la retraite depuis 17 ans. Jamais je n'aurais eu ce raisonnement-là avant d'être à la retraite.
Mmh.
Hein?
Mmh.
Alors, je vais m'adresser à tous ceux qui croient en Dieu. Quel Dieu a jamais envoyé 1000 euros par mois à tous les vieux?
Mmh.
Quelle prière pourrait...
arranger ça.
Provoquer un tel miracle. Hein? Donc, c'est la misère. C'est la misère qui crée l'esclavage, c'est la misère qui crée le fanatisme. Et je souhaiterais qu'on commence par...
Ouais.
Enfin, c'est pas facile parce que les ONG peuvent pas faire qu'une retraite soit que cette idée. Donc c'est une idée à faire avancer et peut-être, alors là c'est un autre aspect, que les radios libres pourraient
exister, voilà,
lorsqu'on a trouvé un bon clou, taper, parce que là, je n'ai pas encore convaincu un seul, mais il se pourrait qu'un jour ça vienne, et y a pas de doute que cela pourrait, hein.
Bien sûr.
On se demande pas assez à quoi devrait servir cet outil merveilleux qu'est une radio de libre expression. Et on a tendance à tourner en rond. La nuit dernière, c'était sur l'amour. Automatiquement, ça s'est terminé comme depuis 25 ans, à savoir une guéguerre entre hommes et femmes. Et là, ça va, avec toi, ça se termine souvent entre gens de fanatisme.
Et toujours, ils sont en train d'essayer de m'intimider, de me terroriser, que j'abandonne ça, et je n'abandonnerai jamais. Tu sais, Jean, par exemple, je veux dire à toi, Farid aussi, regarde, Farid, toi qui tu nous écoutes depuis longtemps, et tous les autres, vous, de temps en temps, je suis désolé, ou vous ne nous écoutez pas bien, votre radio, ou vous n'êtes pas sincère. Jamais on n'a pas critiqué les musulmans et l'islam qui n'est pas politique. C'est-à-dire, toujours, Jean, on a précisé qu'on est en train de critiquer l'islam politique, l'islam qui sort de mosquée, qui sort de la foyer, qui entre dans la société, qui commence à tuer les gens. Cette idéologie politique, on l'a critiquée, on va continuer à critiquer. Et vous, de temps en temps, je suis désolé, quand vous venez sur l'antenne, vous prenez la parole et vous dites la blablabla, à la fin, vous dites ça. David, il critique l'islam politique. C'est celui qui intervient dans la vie politique des gens, dans la vie sociale des gens, qui prend l'arme, qui tue. Alors, tous ces gens, par exemple, notre ami Farid, il dit, l'arme, c'était fabriqué par qui? C'est vrai que c'est pas fabriqué par les forts. Mais si moi, je suis tellement imbécile, que je prends cette arme en Irak et je tue mes frères, et en Afghanistan, je tue mes frères. Au Liban, je tue mes frères. C'est moi que je suis imbécile. Alors, ici, il y a un problème. Si je suis même manipulé par les Américains, encore c'est moi que je suis imbécile. C'est-à-dire, à l'école, tu sais, John, à l'école, on donne l'occasion à tout le monde d'apprendre. N'est-ce pas? Alors, s'il y a un élève qui lui-même, il ne va pas apprendre quand le professeur est en train de parler, quand la maîtresse est en train de dire quelque chose, il ne va pas écouter, il va faire des bordels, on va le virer de classe. Et si c'est lui qui l'a commencé à faire des bordels. Alors si certains individus musulmans sont manipulés par le pétrodollar, qui moi-même je l'avais dit dès le départ, le pétrodollar est très important. Alors oui. Ça aussi, il y en a deux problèmes. Un, dans la pensée de ténèbres de ces gens-là, et deuxièmement, dans leur pensée idéologique, ça veut dire dans l'islam politique, qu'il peut profiter de cet islam politique pour créer des kamikazes. Pour créer des guerriers. C'est-à-dire, il y en a deux problèmes. Un, chez l'individu, l'autre, chez le pensée. Mais toujours, on a dit que nous sommes à côté des peuples, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes. Le peuple, c'est autre chose. Mais les pensées politiques, intégristes, terroristes, c'est autre chose. Jean, je te remercie beaucoup. Parce qu'on arrive à la fin de mon émission. Un mot pour terminer?
Un mot si tu veux. Dans ma famille, on ne croit plus en Dieu depuis au moins 3 générations.
Ouais.
Et on ne s'en porte pas plus mal.
Voilà. Merci, je t'embrasse.
Au revoir.
Au revoir Farid, au revoir John. Tu sais, en plus, il faut pas oublier, spiritualité individuelle, c'est différent avec la croyance religieuse. Et spiritualité individuelle, c'est que il te donne la force d'avoir un contact direct avec quelque chose plus fort que toi dans ta vie pour pouvoir avancer. Ça, c'est individuel, ça, c'est personnel. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de quelqu'un au-dessus de toi pour te gouverner, pour te donner des instructions. C'est pour ça, écoutez bien cette radio qui vous donne cette occasion-là. Ce soir, surtout à 23h, mon ami Didier Deplège va vous présenter la vague d'OVNI. Et tout à l'heure, Thomas sera avec vous. Et je vais remercier John, responsable technique de mon émission. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Merci, au revoir.
De la radio Ici et Maintenant sur 95 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com.